Je connais tellement ça. Je viens de passer 15 minutes, me dit Mathia, Mathia, à enlever tous les petits fils blancs de ma clémentine. De ma clémentine, ça bosse dur ce matin. J'adore. Oui, c'est ça, Mister Nuts, on devrait parler de tout ça ce matin. Oui. Océanographe, scaphandrier, biologiste, on devrait parler de tout ça ce matin. Après, c'est les chroniqueurs qui vont bosser, moi je suis juste le présentateur. Ça, je suis un peu le feignant, moi. Pourquoi ce nouveau décor? Parce qu'en fait, deux fois par mois, quand il y a MVP, je suis pas chez moi, je suis à côté des studios de MVP, c'est un grand studio, c'est pas moi qui produis. Et du coup, bah, on me prête un studio, mais qui sert à plein d'autres gens pour faire ma revue de presse. Donc il est très sympa, il y a plein de trucs comme ce décor qui est très joli. Mais après, comme il y a plein de gens qui bossent avant moi dans le studio, quand j'arrive, en général, c'est un peu la catastrophe. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas de musique, par exemple, sur l'intro là. Voilà. C'est dommage parce que l'outil est vraiment top, mais. Ah, comme c'est pas mon studio, bah du coup ça bouge beaucoup quoi. À quand le MVP sur les métiers de la télé? Ouais, Mentos, bonne idée. Merci Dagui, merci Pizzo, merci à tous les deux. Salut Babadit. Alors ça par contre, je suis crevé, mais ça c'est une bonne réponse. Et une bonne nouvelle. Hello tout le monde, trop content du retour des revues de presse, tu nous as manqué à la maison. Alors ça c'est mea culpa, mea maxima culpa, comme disent les latins. Et en fait, je m'en excuse. Hey Hugo, comment vas-tu? Merci encore Hugo pour rire. Eden Blaster. En fait, j'ai... Avec question pour un champion. Avec tous les autres streams, après tous les projets à développer, j'ai laissé, malgré moi, un peu la revue de presse de côté. J'en ai pris conscience, parce que la revue de presse, la matinée Étienne, c'était quand même la base de ma chaîne. Et en fait, voilà, j'ai manqué de temps pour proposer aussi régulièrement que je le souhaitais la revue de presse. Bon, il y a 7 jours par mois où je ne peux rien faire. Les jours de questions pour un champion, j'arrive au studio, il est 8 heures le matin, je suis battu. Voilà. Voilà, mais il reste 20 jours, enfin moins les week-ends parce que je fais pas de revue de presse le week-end, mais enfin il y a au moins il y a facile 15 revues de presse, il y a facile ouais 4, on va dire. Ouais, une petite quinzaine de revues de presse à faire tous les mois quoi. Et j'ai manqué de temps parce que j'avais besoin de temps pour développer d'autres projets, puis j'ai été un peu happé par le jeu vidéo aussi, et je m'en veux un peu, donc là j'en ai pris conscience et là je fais vraiment essayer de vous proposer beaucoup plus de revues de presse que ces derniers mois. Voilà. Là, je pense que ces derniers jours, vous l'avez noté déjà. Et puis, bon, c'est vrai que c'est des streams qui me demandent beaucoup de travail, parce que c'est bon, en gros, il y a 3 heures de lecture, 3 heures de préparation, plus le stream, plus le côté très sympathique, mais parfois qui peut être un peu fatigant de débattre pendant des heures sur des sujets parfois très polémique avec des gens qui, même armés de bonnes intentions, ben voilà, ont besoin d'échanger en fait, et c'est très énergivore quoi, voilà. Et donc, mais je, moi, je voilà, je vais vraiment essayer de vous en proposer un maximum. Exprès pour Jorissen, voilà. Et puis c'est vrai, alors ça c'est marrant parce que certains connaissent bien mon histoire et mon historique. Moi aussi j'ai un historique. Et Babadit dit, j'ai bien compris que c'est plus chronophage que le reste, surtout que tu mutualises plus depuis que tu as quitté France Info, j'imagine. Oui, avant quand je faisais la matinale de France Info, je lisais les journaux pour France Info. Donc c'était un de mes petits bonheurs du matin. J'arrivais à France Info, il était 3 heures du matin. Et l'un des trucs que je faisais entre 3 heures et 6 heures, c'est que je lisais les journaux pour faire une revue de presse pour France Info. Et en fait, eh ben cette lecture-là, elle me servait ensuite. Je rentrais à la maison vers 10 heures, 9h30, 10 heures, et je lançais une revue de presse à partir du travail que j'avais déjà fait. Donc, j'avais pas ce temps de prépa qui était inclus dans ma prépa de France Info. Donc là, maintenant, quand je fais une revue de presse pour vous depuis que j'ai quitté France Info, eh bien, pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment 3 heures de lecture. Pour ce stream qui va durer 3 heures, quoi. C'est vrai que c'est vrai que ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que tous mes streams ne me demandent pas 3 heures de préparation, quoi. Un stream de gaming, ça demande un peu de prépa parfois, hein, surtout quand tu fais des trucs, un nouveau jeu, ou de voilà ou là le GTRP par exemple, qui est un univers que je connais pas, ça me demande un peu de prépa, mais jamais 3 heures quoi. Jamais 3 heures. Voilà. Mais ça reste la base, le pilier, sinon l'ADN de ma chaîne, et j'ai vraiment l'intention de vous en proposer beaucoup plus qu'avant. Et puis j'ai été un peu flemmard, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu streames du gaming jusqu'à minuit ou 2 heures du matin, et que tu as mis ton réveil à 5 heures du matin pour lire les journaux, bah parfois tu es en mode, ah, c'est bon, allez, laisse tomber. C'est bon, j'ai fait un stream de gaming hier soir, je vais refaire un cet après-midi, ça ira bien, quoi. Et en fait, non. Mais là, par exemple, ce soir, je vais faire du Final Fantasy, sans doute jusqu'à minuit, 1 heure du matin, je pense. Bon, et j'ai bien l'intention de faire une revue de presse jeudi matin. Donc ça veut dire qu'il y aura une nuit de 3-4 heures, quoi. Et ben, ces derniers temps, j'ai eu tendance à pas mettre le réveil, quoi. Voilà. Pour être tout à fait honnête. C'est pas cool, ça. En vrai, ça me fait plaisir de te voir faire des lives jeux vidéo, mais j'aimais bien l'ambiance des premiers lives que tu faisais chez toi, c'est peut-être la nostalgie. Black Ball, t'as raison en fait. Ils étaient super sympas ces premiers lives. Mais après, il faut évoluer, quoi. Et puis moi, j'ai été. Vous savez que c'est l'information qui m'a amené à Twitch. Au début, je faisais que des streams d'infos. Et à un moment, j'ai quand même été obligé de constater que le jeu vidéo était le cœur du réacteur de l'univers de Twitch et que cette culture, je la connaissais pas. Et j'avais envie de rattraper ce retard sur cette culture. C'est pour ça que j'ai créé cette émission Ça me plaît du dimanche, où un créateur de contenu, une créatrice de contenu me propose tous les dimanches de découvrir un jeu vidéo avec lui. Là, c'est Michou dimanche, pour rattraper mon retard. Et ce que j'avais pas du tout anticipé, c'est que j'allais me mettre à jouer moi-même, parce que j'ai vraiment été fasciné par ce que j'ai découvert. Donc elle est bien cette évolution, elle est cool. Mais là où j'ai un peu merdé, c'est que j'aurais pas dû lever le pied sur la revue de presse. Tu vois? En fait, il faut que je fasse les deux, il faut que je trouve moyen de faire les deux. Ah, merci Marvix, embrasse ton papa. Question pour un champion, j'adore ce jeu, quel bonheur. Et dans le futur, tu vois stream de plus de jeux, plus d'actu. Ben justement, Metasac, tu vois, le projet, c'est vraiment d'équilibrer cette chaîne entre info et gaming. Qui est les deux? Qui est les deux? Pour que. Les gens qui sont venus sur cette chaîne, donc on va bientôt atteindre le million de followers, ce qui n'a aucun sens. Les gens qui sont venus sur cette chaîne pour l'info, bah ne soient pas lésés, voilà, et éventuellement m'accompagnent pour rire un petit peu sur mes streams de gaming, et que les gens qui viennent me voir, parce qu'ils sont plutôt intéressés par l'aspect jeu vidéo, et de voir comment un mec peut être aussi mauvais sur tous les jeux de la Terre, eh bien peut-être viennent aussi sur les revues de presse s'intéresser à l'actu, quoi. C'est un peu le projet. Car c'est mon projet. Allez, je vous lis un petit peu, puis on va lancer le. Parce que dans 1 heure et demie. Non, 1 heure, à 11h45, je vais montrer dans le studio d'MVP. Tu arrives à garder tes fonctions cognitives avec 3 heures de sommeil? J'ai l'impression que j'ai des problèmes de mémoire. Je pense que j'ai un petit déficit de sommeil. Voilà. Je pense que j'ai des petits problèmes de mémoire, mémoire qui me joue des tours. Donc, je dirais pas que c'est idéal. Salut The Moonbase, merci. Merci Pandanirio pour le soutien, j'avais pas vu. Merci Krimpae, joli pseudo. Merci Pizzo, merci la J05, merci à tous les quatre. Babadiz, je dois avouer que je consomme très peu ton contenu gaming. Par contre, sur un trajet voiture Toulouse-Paris, on a écouté le replay, donc le podcast du MVP sur les métiers de la mort. C'était le dernier numéro. Absolument passionnant. Ouais, c'était cool, en vrai. Merci, Alphonse Edal. Trop gentil. Allez, on y va. Je vous fais un petit sommaire, comme ça, ceux qui n'ont pas 3 heures à me consacrer, vous avez l'essentiel de l'actualité. Il n'y a pas un milliard de trucs ce matin, il y avait des unes qui m'ont pas passionné, c'est très subjectif. Voilà, sur des actualités autour de la majorité, du gel ou du non-gel des retraites et des tensions. Attends, ça va la mise en page, ouais. Et des tensions au sein de la enfin, de la majorité, il n'y a pas vraiment de majorité d'ailleurs. Mais des groupes qui soutiennent le gouvernement sur qui annonce quoi. J'ai pas trouvé ça très passionnant. Je vais quand même suivre les dossiers. Voilà. Voilà, donc l'Allemagne, par contre, ouais. L'Allemagne, ça fait plusieurs jours que j'avais envie de trouver un bon gros dossier sur la crise politique en Allemagne. J'attendais le bon gros dossier, je l'ai trouvé ce matin, il est en une du Figaro. Pourquoi l'Allemagne, hein, qui était gouvernée, je parle au passé parce que c'est en train de se terminer, par une coalition sociodémocrate, libéraux et écologistes, pourquoi l'Allemagne est en crise politique et, salut Mirage, et en crise économique, hein, eh ben, j'ai trouvé un dossier dans le Figaro ce matin qui est assez complet. Donc si, comme moi, vous demandez pourquoi l'Allemagne est en double crise, merci Clovis. Eh, merci Clovis. Ouais, mais après Clovis, en fait, je pense que tes questions, elles m'ont un peu énervé hier parce que je pense que tu ne connais pas la chaîne. En fait, tu ne la connais pas assez bien pour pouvoir la juger. Et hier, tu étais dans le jugement et franchement, je pense que tu ne connais pas ma chaîne et ce que je fais et mon rapport à toutes ces questions pour poser ces questions comme tu les as posées. Et en fait, tes questions, elles avaient des formes d'affirmation. C'est pour ça que ça m'a un peu irrité. Mais les gens qui connaissent ma chaîne, ma façon de travailler, ne se posent pas ces questions parce qu'ils savent que je suis transparent là-dessus. C'est pour ça que ça m'a un peu énervé. J'aime bien le ton de ta dernière question et je veux pas te rembarrer en fait, c'est pas du tout. Tu es le bienvenu ici. Et tes questions sont pertinentes. C'est juste que je me suis déjà justifié de tout ça et je suis assez clean là-dessus, quoi, en vrai. Voilà. Alors je suis pas allé sur les gros titres, mais je suis allé sur des trucs qui m'intriguent un peu. Ça, par exemple. Il va y avoir une épreuve de maths en première. J'ai rien compris. Alors, parce que je suis, bon, ça fait longtemps que j'ai passé mon bac, donc on est d'accord, depuis quelque temps, il y a une épreuve de français anticipé pour le bac, c'est ça? Non. Non, 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 le français, c'est longtemps. Je suis perdu, je comprends rien. Bon, il y a du nouveau, là. Les lycéens qui sont en seconde cette année passeront en juin 2026 en plus de l'épreuve de français. Oui, mais ça, c'est depuis toujours. Une épreuve anticipée de mathématiques. Donc, il y a l'épreuve de français anticipé en première, et maintenant, il y aura les maths. Qu'est-ce que je ne... Ah bah merci. Cyril me dit, je suis comme toi Samuel, avec le réforme tous les ans, j'y comprends plus rien. Je ne comprends rien. Normalement, il y a le français en première, me dit Pierre-Yves. Voilà, et sur certaines filières, la philo et l'histoire. Oh là là, je comprends rien. Voilà. Ça veut dire pas de maths en terminale? Eh ben, c'est la question que je me pose, Michardou, j'ai rien compris. D'accord, il y a une épreuve de français en première, ils veulent faire pareil pour les maths. Je ne comprends rien à ces trucs. Fin des maths en terminale, je me pose la question, la même question que toi, Lerwan, je ne comprends rien. On va lire cet article tout à l'heure, on va essayer de comprendre. Bon. J'ai cru comprendre que Blanquer avait supprimé les maths en terminale. Ouais, mais ils sont revenus en arrière, ils se sont rendu compte que c'était une connerie. Oh là 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 là. Je comprends rien. Je te rassure, ceux qui font les programmes et prennent ce genre de décision ne captent rien de plus, me dit Morgoth. Okay. Bon, écoutez, on va. Vraiment, là, voilà, j'ai besoin de vos lumières. Je suis sûr qu'il y a des enseignants dans le chat, parce que vous êtes tous. Il y a plein de gens spécialistes de telle ou telle question. Là, j'ai besoin de vos lumières, en vrai. Hein. Ah, en terminale, il y aura encore une épreuve de maths? Donc, attends, première épreuve de maths? Terminale épreuve de maths? Oh, mais c'est quoi ce bordel? Bon, on verra ça tout à l'heure. Bon, ça c'est plutôt positif. Il y a des ambitions pour faire en France une génération sans carie. C'est-à-dire que ces dernières années et décennies en France, il y a eu de vrais progrès sur la santé bucco-dentaire de la population d'une façon générale et des enfants. Voilà. Et on a des enfants qui ont moins en moins de caries par rapport à ma génération, par exemple, où on avait la moitié des dents qui étaient pourries, quoi. Je suis dentiste et je recommande, me dit Xeram. Voilà. Donc là, il y a un nouveau plan qui arrive à partir du 1er janvier prochain. Avec l'assurance maladie qui va prendre en charge un bilan dentaire annuel, chez les 3-24 ans. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers une génération sans carie. Voilà. L'article de la Croix, très intéressant, nous explique qu'il y a de grosses différences selon l'origine sociale de l'enfant. En gros, dans les milieux favorisés, il y a de moins en moins de caries. Dans les milieux populaires, il y en a plus. Voilà. Donc, le plan vise à bosser là-dessus. C'est pas mal ça, hein? 3 mois pour avoir rendez-vous chez le dentiste, génial. Alors le problème, évidemment, au TR-Stream, c'est que dans certaines régions, il y a des déserts médicaux et du coup, il y a des. Ça s'appelle MT dents, non? Alors non, Cotal, ça c'est l'ancien plan et ça c'est un nouveau plan qui est mieux. C'est comme le MT dents, mais mieux. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de dentistes. Bon, ça va vous sembler anecdotique. Mais bon, moi, c'est un sujet que je connais bien parce que mon papa était poissonnier, et puis je suis breton. Et ça montre que quand il y a de la bonne volonté, quand il y a de l'intelligence, eh bien, les gens peuvent faire des trucs bien. En Bretagne, il y a quelques années, il y a eu une pénurie de coquilles Saint-Jacques. Parce qu'on surpêche les ressources naturelles. On a un MVP spécial eau tout à l'heure. Et à un moment, il y a eu une surpêche de la coquille Saint-Jacques. Voilà. Qu'on fait dans un coin de Bretagne, précisément dans la baie de Saint-Brieuc, les pêcheurs, hein, dès les années 70, constatant qu'il commençait à y avoir une pénurie de coquilles Saint-Jacques, plutôt que de paniquer, ils se sont organisés, les professionnels, les pêcheurs, eh bien, pour moins pêcher, pour pêcher que certains jours, voire que certaines heures, voilà, avec des filets d'un certain maillage, pour ne pas prendre les plus petites. Donc en fait, ils ont protégé la ressource, voilà, la mise en place des quotas, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les pêcheurs qui l'ont fait. C'est pas l'État qui l'a imposé, c'est pas l'Union européenne qui l'a imposé, c'est pas le législateur. Ce sont les pêcheurs qui l'ont fait et ils ont réussi. C'est-à-dire que la ressource est renouvelée aujourd'hui. La ressource, elle est en pleine forme. Et ça, c'est une initiative de professionnels. Voilà. Ils auraient pas pu arrêter de pêcher tout simplement. Ben pourquoi, ces mecs? Non, faut protéger la ressource, mais à un moment, ils ont le droit de vivre aussi. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais eux, ils ont envie d'être pêcheurs. Voilà. Et ils ont protégé le ressource, et je trouve ça génial. La pêche intelligente, bravo. Voilà. Voilà. Salut Saint-Brieuc, représente ici. Bah, bravo les briochins. Parce qu'on dit, je crois qu'on dit des briochins, les habitants de Saint-Brieuc. Hein. Et puis c'est Bang le poisson. Merci Maltia pour ce commentaire. Ah, un truc dont j'avais entendu parler. Est-ce que vous savez que il y a un mec, c'est un néo-zélandais, je crois. Il s'appelle Nigel Richards. En fait, il a déjà été champion du monde, je crois, en français, en anglais, en français, de Scrabble duplicate, je sais pas comment on dit. Voilà. On dit Nigel, je crois. Nigel, ouais. Duplicate, je connais pas le Scrabble. Duplicate. Ouais, c'est ça, Morgoth, le mec a une mémoire de dingue, là. On dit duplicate, ouais, il parle pas français, mais il parle pas espagnol non plus. Attends, je vais vous expliquer l'histoire, elle est géniale. Mais on dit duplicate ou duplicate, les fans de Scrabble, là. Salut, Fabs. C'est comme KitKat, duplicate. Duplicate. Ah, vous êtes pas d'accord. Alors, j'attends que le chat se mette d'accord. Duplicate. Anonyme 31, ah. Comme Kate Middleton, Duplicate, ok. Donc, le mec est devenu champion du monde de Scrabble Duplicate en anglais, ok, bon, il parle anglais. Champion du monde de Scrabble Duplicate en français, sauf qu'il parle pas un mot de français. Hein? Il a appris le dico par cœur. Il a appris le dico par cœur, en tout cas les mots qu'on peut utiliser en français dans le Scrabble. Et il vient de le faire avec l'espagnol. Le mec ne parle pas un mot d'espagnol. Il a appris le dico espagnol par cœur. Il vient de devenir champion du monde. Voilà, je vais vous raconter cette histoire. Je trouve ça totalement insane. Et puis en mode insane aussi, des nouvelles de Victor Wembanyama, parce que on a beaucoup parlé de son arrivée, chez les Spurs. Hein, la draft, tout ça, MVP, numéro 1 la draft, blablabla, blablabla. Ben, à un moment, je me suis dit que c'était cool de prendre de ces nouvelles. Tout va bien, c'est l'équipe qui nous dit que voilà, ça se passe très très bien dans son club. Voilà, il est toujours au plus haut, tu m'étonnes. À pas de géant, je trouvais intéressant de prendre un petit peu de ces nouvelles rapidement. Le futur GOAT du basket, ouais, bah quasiment déjà le GOAT. Hein. Ouais. Et puis on finira avec l'actu cinématographique. Gladiator 2. Moi, je sais pas si vous le savez, mais il y a un nouveau Gladiator, combien de temps après? Genre 25 ans, non? C'était en 2001. 24 ans après le premier Gladiator. Il y a un nouveau qui arrive au cinéma, là. Réalisation, c'est toujours... comment il s'appelle, là? Super connu, là. Je vais me le dire avant que j'arrive à le retrouver. Je vous connais. Attends, je ne connais que lui. Bon, Ridley Scott, c'est bon. Je savais que le chat l'aurait avant moi. Putain, c'est pas beau de vie. Ridley Scott, voilà. Alors, qu'est-ce que vaut ce film? Alors, c'est vraiment un grand spectacle. Il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre. Fan service ou réel bon film? Je sais pas, maintenant, je l'ai pas vu. Avec Paul Mescal, ouais. Alors, je connaissais pas cet acteur, mais voilà. Alors, donc j'ai eu plein d'articles ce matin. Je vous ai sélectionné celui de Libé qui dit bon, qu'il y a de la baston, il y a de la bagarre, il y a de bons acteurs, notamment un Denzel Washington qui est incroyable. Après, c'est une grosse machine. Hein, voilà. Voilà. Une grosse machine avec notamment des trucs qui n'ont pas trop de sens historiquement, comme à un moment des requins. Voilà, des requins. À un moment, il y a une scène de bataille navale avec des gladiateurs et des requins dans une piscine géante. Voilà. Et là, Libé dit c'est un peu trop, quoi. Voilà. Ouais, des requins dans le Colisée. Donc, bon, après. Après, bon, c'est un truc. Libé dit c'est un truc de divertissement. C'est pas si grave. Voilà. C'est du grand spectacle. Vous faites pas avoir. C'est pas un film d'auteur. Mais en même temps, est-ce que c'est ce qu'on demande à un film? En tout cas, pour le genre, film à grand spectacle, ça semble plutôt réussi. C'est ce que semblent dire la plupart des critiques ce matin. Comme Libération. Je suis allé voir le premier Gladiator il y a quelques jours au cinéma, c'était exceptionnel, j'attends le 2 avec impatience, mon Hard Rock Gamer. Malheureusement, film pas mauvais, mais pas justifiable du tout comme peur attendue. Ouais, le film de Napoléon, je m'en souviens, ouais. On va pas spoiler. C'est des mecs en jupette de cuir qui se taillent à des coups d'épée, hein. Je viens de spoiler le film. Hein. Toi, c'est des mecs, tu les mets dans un espèce de bac à sable géant, tu leur donnes des épées, puis ils se tuent. Hein. C'est ça, le Gladiator, en fait. Hein. Voilà. Après, ils brodent autour un petit peu de ça, quoi. Ouf, merci Alphonse Cédal. C'est trop sympa. Merci Laricola pour le soutien. Merci Lemming67. Merci Touwelly pour les beats. Hello, la Saint-Jacques se composte-t-elle? Joli, je valide. Merci Pandanerio. J'ai un peu spoilé le film là. Est-ce que tu peux éloigner ton micro un petit peu, s'il te plaît, Choker? Ok, d'accord. Comme ça? Après, faut trouver la bonne distance, quoi. Là, ça va, là? Plus? Comme ça? Oh! Merci, Nerd Factory, pour le raid! Merci beaucoup, Nerd Factory, pour le super raid! Comme ça? Elle est disparue, là. Non, je vais éloigner un peu de ma bouche, bien sûr. Il y a Craninos qui dit est-ce que tu peux te mute un peu? Je sais pas. Alors, je peux pas me mute. Par contre, je peux te mettre un Théo. Je sais pas. Ah putain, je t'ai exclu. Putain, je te l'ai mis le Théo. Je voulais même pas. Merde. Je l'ai pas fait exprès en plus. Merde. Attends, je l'annule. Attends. Comment on fait pour annuler? Je viens de te ban def. Non, c'est pas vrai. Ça y est, je t'ai annulé le. Excuse-moi. Je voulais pas cliquer en plus. Je voulais pas cliquer. Non, je l'ai unban. Non, il a l'air trop gentil en vrai. Let's go. Alors, j'ai 1h15. Let's go. Donc là, faut plus traîner, mon papy. Hein? C'est simple, il a pris la grosse tête, il est devenu sénile, 20 ans qu'il a rien sorti de potable. Morgoth. Tu parles de moi, là? Ah non, tu parles de Ridley Scott. Super. Ouais, le bandef a failli partir. Samuel, tu l'as chanté quoi? Il y a eu quelqu'un qui a payé pour le chant? Non, je l'ai pas. Quelqu'un a payé? Kramakin, quelqu'un a payé ou pas? Je l'ai pas, moi. 300... Ah, attends, parce que j'ai pas les bons filtres. Bah si, pour ton power-up. Boost. Oh, bah, putain, je suis vraiment pas sur mon setup. Craninos. Quelle chanson? Pourquoi je l'ai pas, toi? Ah, c'est peut-être ça, demande de récompense, c'est peut-être ça. Objectif. Je clique sur tout. Craninos. Ah, je l'ai. C'est quoi la chanson? Mais il m'a pas mis la chanson. Quelle chanson? J'éloigne le micro. Quelle chanson? Il a demandé quelle chanson? Il faut baisser le mic. Attendez, vous savez quoi? Attendez, je vais vous baisser. Je viens de baisser le niveau du micro. Il était trop fort. C'est pas mon setup. Quelle chanson? Non, j'ai baissé le niveau du micro. Ah, il a pas précisé. Quand il pète, il trouve son slip. Ok, d'accord. C'est quoi cette chanson? Je la connais pas. Attends. Quand il pète, il trouve son slip. Quand il pète. Alors je pense que vous n'allez pas l'entendre, j'ai pas le son sur ce setup. Vous avez pas de son là, hein? Vous avez pas de son là? Vous avez du son là? Ouais. Je vais essayer de vous la chanter. Je l'ai là. Vous êtes pas a cappella, a cappella. Ça y est, j'ai. Il était dimanche sur TF1. Quand il n'y avait pas la Formule 1. Interprété par Chuck Norris. Et pas venu pour jouer au tennis. Au Texas, tout le monde le craint. Je fais pas mazouter le pingouin. Il est tellement balèze, le type. Que quand il pète, il trouve son slip. Quand il pète, il trouve son slip. Et 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 ça continue. J'adore, je connaissais pas en vrai. Putain, j'ai eu chaud, du coup, j'enlève mon sweat. J'enlève pas mon slip, hein, j'enlève mon sweat. Ah, j'ai découvert un truc, je connaissais pas. Hein. Ok. Quand il pète, il trouve. Je suis gêné, faut pas Aurore, c'est normal ici. C'est normal. La première fois, ça surprend. On s'habitue. Alors, sans transition, on va passer donc à la crise politique en Allemagne, bien sûr. Hein, voilà. Pourquoi notre voisin est confronté ainsi à une crise politique, mais aussi économique. Voilà. Il y a tellement de gens qui sont gênés. J'adore. Salut du Figaro ce matin. Est-ce que quelqu'un peut passer de « et quand il pète, il trouve son slip » à la crise politique en Allemagne aussi vite? Est-ce que quelqu'un peut le faire, je dirais, au niveau mondial? Je pense que je suis le seul à pouvoir faire ça. L'Allemagne d'Olaf Scholz plonge dans la crise politique, titre le Figaro, sous pression après l'effondrement de sa coalition à la tête d'un pays à l'économie en berne. Rien ne va plus en Allemagne, hein. Le chancelier social-démocrate a convoqué les élections législatives pour le 23 février. Plongé dans une crise politique inédite, plusieurs jours je suis ça, mais j'attendais le bon article, donc là le voici, l'Allemagne se dirige vers des élections législatives anticipées, ce sera le 23 février prochain, c'est pas tout de suite, hein, et une très probable alternance, donc en gros ce seraient les conservateurs de la CDU qui pourraient arriver au pouvoir, à la tête du pays après l'éclatement de la coalition de Olaf Scholz. Rappelons que au pouvoir en Allemagne, il y avait une coalition sociaux-démocrates, libéraux et écologistes, puis ça s'est pas très très bien passé, quoi. La semaine passée, prenant acte de désaccord sur la politique économique devenue insurmontable, le chancelier social-démocrate a écarté de sa coalition les libéraux, donc il a viré les libéraux, hein. Il dirige depuis un gouvernement minoritaire alors que le pays se débat par ailleurs dans une grave crise économique, notamment industrielle. Avec cette crise, le chef des conservateurs Friedrich Merz, donc serait lui le grand vainqueur de cette histoire. Oui, c'est ça. Alors Angela Merkel, elle était de CDU, hein, c'est ça? Elle était conservatrice, je crois, hein, Merkel. Là, je suis sur Sébastien Patoche, là. C'est ça, hein. Pour moi, Merkel, elle était conservatrice. Merkel, CDU, je crois. Hein. Donc, Merkel, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, exactement. Et en fait, ce serait, donc si je comprends bien, c'est celui qui lui a succédé à la tête de la CDU qui devrait arriver au pouvoir aux prochaines législatives. Laissons les Allemands voter. Hein. Avec cette crise, donc, le chef des conservateurs Friedrich Merz voit son rêve d'accéder à la chancellerie se rapprocher, le parti est donné largement gagnant du scrutin. Les élections, c'est en février, hein. Attendons un petit peu. Alors du coup, le Figaro nous propose un démocratie chrétienne. Maxence, c'est la droite, c'est la droite, c'est la droite. Vous simplifiez. Oui, CDU, ça veut dire Parti chrétien-démocrate, mais on est sur. Pour comparer, pour que les gens comprennent par rapport à ce qui existe en France, ben, on va dire le SPD, c'est proche de nos socialistes sociaux-démocrates en France, et la CDU, c'est la droite, quoi. C'est ce que, c'est plus ou moins le parti LR, l'ex-UMP, ex-RP en France. Et si, c'est conservateur quand même, CDU. Bon, chouchou, va pas me faire croire que c'est des dangereux marxistes. Hein. Les conflits nés durant la négociation du contrat de gouvernement ont dégénéré et ont fini par paralyser l'Allemagne. Que nous dit le Figaro ? Que, alors certains trouvent formidables les coalitions, mais le problème des coalitions, c'est que parfois, c'est compliqué de s'entendre. Donc cette coalition, elle a eu du mal à s'entendre et à trouver un contrat de gouvernement. Il y avait, le Figaro nous dit que le verre était un peu dans le fruit et que les dissensions apparues au moment des négociations de coalition, elles se sont poursuivies. À un moment, tout a pété, quoi. L'épilogue donc d'un mandat en forme d'échec pour Scholz, estime le Figaro, une coalition défaillante à qui il aura manqué un arbitre capable de rappeler ses joueurs à l'ordre. C'est un petit peu la ligne directrice de cet article dans le Figaro ce matin. Ils estiment que Scholz n'a pas su imposer une forme de discipline à cette coalition. Ouais. Le vert ou les verts ? Joli, dans le fruit. Celle-ci était née sous les auspices de l'Inédit en rassemblant trois partis. L'étrangeté apparente d'une alliance entre écologistes et libéraux semblait surmontable par la jeunesse de leurs électorats communs, gourmande d'une société ouverte, voire libertaire. L'accord de coalition avait été conclu le 24 novembre. Il est baptisé à l'époque, en 2021, « Osons plus de progrès ». Osons ! Osons. Petite nuit blanche pour Apache, comment vas-tu ? Le chancelier est persuadé de brandir le bon message à l'époque à l'égard de ses concitoyens. Il se résume en un mot, le respect. C'est assez intéressant. Le respect que l'État social doit aux Allemands ordinaires dont le quotidien est bouleversé par les transformations économiques. Hein ? Je trouve que c'est plutôt intéressant comme philosophie. Olaf Scholz est loin d'imaginer fin 2021 une telle issue à son gouvernement. Auréolé du prestige d'Angela Merkel sur la scène internationale, l'Allemagne est à l'époque la principale puissance d'un continent en paix et achève l'année sur un taux de croissance de 2,9%. Ça allait plutôt bien. Mais là, le problème, c'est que les difficultés vont arriver quasiment juste après, au quatrième trimestre 2021, sous l'effet de la crise sanitaire, souvenez-vous le Covid, et les impacts sur l'économie, qui met à mal les chaînes d'approvisionnement allemandes. Le PIB allemand recule. On passe d'une croissance à une croissance de PIB négative. Lorsqu'une nouvelle vague de Covid débarque outre-Rhin, Olaf Scholz hésite alors à imposer des règles de confinement aux Länder, à différence de Merkel, qui avait su imposer un cadre sanitaire fédéral aux régions. Le social-démocrate, autant pour moi, tergiverse et renonce à imposer la main de Berlin sur les provinces. Le chancelier se montre déjà indécis et surtout avare de parole. Ce que les politologues interprètent... Oui, c'est intéressant, oui. Hein, certains trouvent que le régime parlementaire, c'est un régime où il faut des coalitions. Hein. Voilà. Et le problème des... Alors nous, en France, on ne connaît pas trop ça sous la 5e République, l'absence de majorité absolue des derniers gouvernements nous met un peu sur cette voie. Et donc, on est nombreux à France à estimer qu'il faudrait un régime plus parlementaire. Mais qui dit régime parlementaire dit régime avec des coalitions. Et qui connaît un petit peu l'histoire constitutionnelle des régimes parlementaires, bah, parfois... Ça crée beaucoup d'instabilité politique aussi, et il y a Vicky Yaourt dans le chat qui en parle. Ce que les politologues interprètent comme des carences de communication est présenté par les conseillers de Olaf Scholz comme un refus assumé de l'esbrouffe politique, associé à la recherche patiente et discrète d'un compromis. Cette aspiration au consensus érigée outre-Rhin en valeur démocratique suprême car héritée du caractère fédéral de la République est terrorisée à l'extrême par les chanceliers en communication du chancelier. Donc des conseillers qui disent à partir de trois différents... Désolé Nulal, je ne suis pas sur mon setup, il n'y a rien qui va, mais je vais mettre fin à ça bientôt. À partir de trois différents points de vue, nous avons trouvé des compromis. C'est ainsi que nous faisons de la politique en forgeant un accord entre les partis. Et cet accord constitue lui-même un élément des sociétés représentées par ces trois partis. Voilà, bon. Sauf que ça n'a pas trop marché, quoi. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a ébranlé plus que tout autre en Europe le gouvernement allemand. Hop là, c'est caché, je suis allé voir là. La perte notamment d'une source d'énergie gazière russe à bas prix, donc était un des moteurs importants de l'économie allemande, hein, fondé sur un gaz russe à bas prix. Puis l'abandon du gazoduc Nord Stream a bouleversé son agenda climatique et exposé à nu les divergences doctrinales entre les partenaires. Les Verts, les écologistes volontiers interventionnistes, s'opposent aux Béraux, rétifs à apposer sur le marché la main de l'État, parce que quand la crise économique est arrivée, en gros, vous aviez les Verts, par exemple, qui disaient « bon, il faut une intervention de l'État ». En France, il y a une intervention de l'État très très forte, vous le savez, notamment, par exemple, pour, pour que les prix de l'énergie n'explosent pas à l'époque, ou encore pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Bon, bah ça, les libéraux se sont opposés à ça. Dans le but de torpiller, par exemple, les libéraux, le FPD, ils ont fait fuiter un projet de loi d'un ministre écologiste visant à généraliser l'usage des pompes à chaleur. Proposition qui va susciter un tollé chez les ménages allemands déjà frappés par j'ai des petits messages là, par l'inflation. Ah tiens, c'est les audiences de questions pour un champion. Bon, ça fait plaisir en vérité d'avoir un jeu aussi ancien qui marche bien comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Cette proposition va susciter un tollé chez les ménages allemands, déjà frappés par l'inflation, et va marquer le début de la chute pour les Verts. À Bruxelles, les libéraux vont tenter de saboter le projet de directive européenne interdisant à partir de 2035 l'immatriculation des véhicules équipés d'un moteur thermique, vous savez. Donc ça aussi, c'est venu des libéraux et de certains constructeurs automobiles. Les eurodéputés verts allemands, encore plus que leurs collègues berlinois, sont révoltés. Donc le Figaro évoque comme ça liste tous les sujets de polémique entre les partenaires de la coalition, notamment entre Verts et Libéraux. Pendant que ces deux alliés s'écharpent sur la place publique, voire lui demandent des comptes, que fait le chancelier Olaf Scholz? Il se tait. Sa tactique consiste à laisser les autres se disputer en restant à l'écart des problèmes. Cela traduit un manque de leadership, cingle un eurodéputé allemand écologiste. Progressivement dénonce ses critiques, sa posture d'homme de compromis, on vient à justifier son incapacité à trancher. Un homme à la tête d'une coalition, mais qui n'aurait pas su imposer son autorité, c'est un petit peu ce qu'on a dit de Figaro ce matin. Deux choses intéressantes aussi, je ne suis pas d'accord, il laisse les autres se discréditer. C'était peut-être son calcul, Moustique. Sauf que le résultat, c'est que la coalition, elle explose, là. Et il va perdre les élections. Et il n'a pas su, manifestement, prendre les bonnes mesures au bon moment pour son pays. Donc, pas terrible, quoi. Hein. Deux choses intéressantes dans le Figaro. Un portrait de celui qui pourrait devenir le nouveau chancelier en février prochain, donc le conservateur Friedrich Merz, le patron de la CDU. Alors, Figaro dit conservateur, quelqu'un me disait tout à l'heure que la CDU c'était pas un parti conservateur. Manifestement, Samuel Etienne et le Figaro ne sont pas d'accord avec toi. Et puis aussi un petit article sur pourquoi l'économie allemande ne va pas bien, quoi. D'abord, un mot de Friedrich Merz. Un sondage paru hier donne 32% d'intention de vote à la CDU. Voilà. Et à ce phénix de la politique allemande, comme le qualifie le sénateur LR Ronan Le Gleut, hein, député français, puisque le président du groupe d'amitié France-Allemagne se montre dithyrambique pour saluer une détermination qui force l'admiration. On se souvient de son parcours de l'éclipse pendant les 16 années de chancellerie d'Angela Merkel. Et finalement, aujourd'hui, il est au top. Adversaire résolu de l'ancienne chancelière. Merz, il s'opposait à. D'accord. Alors Friedrich Merz était un opposant à Merkel, mais au sein. Alors que c'était du même parti. J'ai pas d'infos là-dessus. D'accord. À 69 ans depuis lundi, ce père de trois enfants dispose, selon sa biographe, des qualités pour diriger ce pays en temps de crise. Ce n'est pas quelqu'un à l'air sympathique ou chaleureux, mais il est intelligent et droit. Alors moi, personnellement. En responsable, merci Maxence, t'es gentil. Je préfère qu'on ait des gens pas sympathiques ou pas chaleureux à la tête de notre pays, mais intelligent et droit, ça me va bien, moi. L'auteur établit un parallèle avec Kohl, Helmut Kohl, pas forcément charmant, mais compétent. Ok, bon, a priori, ce serait le prochain chancelier. C'est bon, Morgoth, j'ai vu ta blague. Alors, pourquoi ? Alors moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais pourquoi l'économie allemande va si mal ? Vous savez, longtemps, l'économie allemande était montrée par certains en France comme un modèle. Là, c'est intéressant, il y a Pellerès qui me dit « Je suis étudiant Erasmus en Allemagne. » Ce que me disaient aussi des militants sociodémocrates, c'est que Scholz manque de leadership et de communication. Alors, pourquoi ça ne va pas en Allemagne ? Chancelier, c'est l'équivalent du président en France ? Non, c'est plutôt l'équivalent du Premier ministre. Il n'y a pas de président tel que il y a un président de la 5e en France, quoi. En Allemagne, c'est pas comparable en fait. Le patron de l'exécutif en France, c'est le président, sauf en cas de cohabitation, bien sûr. Mais normalement, c'est le président et le Premier ministre est censé appliquer les directives du président, sauf en période de cohabitation. En Allemagne, le patron de l'exécutif, c'est le chancelier. Voilà. Donc, ce sont les deux patrons de l'exécutif, sauf que bah, c'est pas la même chose, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs. Et puis, il n'y a pas une élection au suffrage universel pour désigner le chancelier, hein, c'est un régime parlementaire, donc on élit des députés au Bundestag, et puis c'est le parti qui a la majorité qui nomme le chancelier, quoi. Voilà, il y a un président d'Allemagne, mais c'est, comme le rappelle Tsetse Tsubasa, mais c'est un poste un peu honorifique, quoi. Voilà, symbolique. Ouais. Exactement. Comme dans pas mal de régimes parlementaires, d'ailleurs, où il y a un président ou un roi, mais qui ne sert à pas grand-chose, quoi. Voilà. Je vois que vous savez. Alors, pourquoi l'économie allemande ne va pas bien ? Après des années de prospérité insolente que nous connaissons bien, Berlin est en passe de redevenir l'homme malade de l'Europe. Les indicateurs illustrent la crise selon les dernières prévisions du gouvernement. Après un recul de 0,3% l'an dernier, le PIB devrait à nouveau fléchir de 0,2% en 2024. C'est quand même un PIB, croissance de PIB négatif, c'est pas terrible. Tous les piliers du modèle qui avait assuré la stabilité des années Merkel vacillent. D'abord la suprématie de l'industrie automobile est remise en cause par la concurrence chinoise. Déjà, vous savez que l'industrie automobile allemande est très importante. La concurrence chinoise en avance vis-à-vis de l'Europe sur le sujet crucial de conversion aux technologies électriques. Volkswagen, le premier constructeur du pays, a ainsi provoqué une onde de choc en annonçant devoir fermer des usines et licencier des dizaines de milliers d'employés. Alors qu'à une époque, c'était quand même une industrie florissante. La guerre commerciale promise par Trump avec des hausses de tarifs douaniers entre 10 et 20% devrait encore un peu plus complexifier la donne pour l'industrie européenne. Je vois un message intéressant de Gaulle Durlenin, joli pseudo. Toute l'économie allemande est basée sur l'exportation, donc ils ont le combo énergie qui augmente, concurrence de la Chine sur la production et protectionnisme des marchés où l'Allemagne exporte donc dur. Bah, c'est exactement ce que dit le Figaro. Bonne analyse de Gaulle Durlenin. Ouais. Ouais, intéressant. Attendez, là c'était caché par un truc, je suis là. La compétitivité de l'industrie est encore minée par le coût de l'énergie, c'est ce que disait Gaudur. Dépendant depuis 20 ans du gaz russe, l'Allemagne a dû revoir en catastrophe son système dans la foulée de la guerre en Ukraine. Elle importe désormais massivement du GNL américain et promet de réorienter son modèle énergétique vers l'hydrogène et les renouvelables. L'Allemagne paie en effet au prix fort les 16 années de sous-investissement du règne d'Angela Merkel partout. Les infrastructures physiques marquent des signes d'obsolescence, tandis que sur le volet numérique, dont la couverture 5G, le pays se distingue par un déploiement tardif. C'est dingue. Hein. Malgré les demandes de nombreux entrepreneurs d'un soutien à la croissance, pour le coup en France, bah, on l'a eu hein, pendant la crise sanitaire, mais ça a coûté un fric fou, la droite comme les libéraux sont demeurés inflexibles sur les questions budgétaires. Voilà, c'est vrai que l'équilibre budgétaire en Allemagne, c'est un truc un peu sacré. Quoi. Voilà pourquoi l'Allemagne ne va pas très fort. Je vous lis un petit peu. Et après, on nous parle de modèle. Bah, pas trop en ce moment, ouais. Twisted Art, je savais pas ça en France. Le secteur du luxe est dans la tourmente. Le secteur du luxe est dans la tourmente à cause de la décision de la Chine de ne pas soutenir la consommation et la crainte de l'augmentation de la taxe douanière à venir des USA. Je savais pas ça. Ah ouais. Donc les LVMH, tout ça, là, les PPR. D'accord. Ah ouais. J'apprends des trucs. Oh mince les pauvres. Alors ça peut être une réaction effectivement assez amusée de dire ah oh mince les pauvres. Sauf que derrière il y a des emplois. Hein. Et il y a de l'exportation. C'est-à-dire que le poids de l'industrie du luxe en France, avec les emplois que ça comporte et la contribution à la balance commerciale française, il n'y a pas que les actionnaires derrière. Pensez aux gens qui bossent pour ces groupes, les chouchous. Je savais pas ça. Ok. Bon, intéressant. Bon. Le nombre d'entreprises qui ferment chez moi vers 2005 va être très compliqué, dit Mystérieuse. Alors, j'ai vu pas mal d'articles sur des signaux alarmants sur des dépôts de bilan d'entreprises à venir en France. Je vous ai pas mis d'article de côté encore à ce sujet, mais je vais le faire, c'est prévu. Ouais. Ce ne sont pas les actionnaires qui traînent un compromis, malheureusement, je suis bien d'accord, Dabs. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci Rixal pour le Prime. Merci Nailer Ghost. Merci The Voyager. Merci Damos. Merci Loïc Reviews. Merci Lunial. Merci Défécateur officiel dont on a parlé hier matin sur, sur France TV slash. C'était mignon, ça m'a fait plaisir. Merci la Ricola. Togmar me dit l'Allemagne qui va mal, il faut pas s'en réjouir, ça déstabilise toute l'Europe, notamment l'Italie qui est un grand sous-traitant. Merci Enzer pour le soutien. Ouais. J'apprends plein. Moi, je suis censé apprendre des choses dans ces revues de presse et vous donner des infos, mais j'en apprends autant que vous m'en donnez. Ok. Hop, on enchaîne, mais on y reviendra. Mais je suis content parce que ça faisait plusieurs jours que je cherchais un dossier un peu complet sur la crise politique et économique en Allemagne. Pour le coup, ça vous intéresse. N'hésitez pas à acheter le Figaro ce matin ou à le télécharger. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'ai rien compris, je ne comprends rien, je suis perdu. Encore une réforme du lycée, du bac, je ne comprends rien. Merci Rimex, c'est gentil. Ça n'est pas faux. Je vais trouver des solutions. Une épreuve de maths en première va chambouler le bac. Qu'est-ce que c'est qu'encore ce BINS ? Les lycéens qui sont en seconde cette année passeront l'an prochain, en juin 2026, en plus de l'épreuve de français, donc ils seront en première, une épreuve anticipée de mathématiques. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Annonce hier de la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. Bon, lisons et puis essayons de comprendre. Moi, je ne comprends rien. En dévoilant l'acte 2 du choc des savoirs, le ministre de l'Éducation nationale, donc la ministre Anne Genetet, a annoncé la mise en place d'une épreuve anticipée de maths pour les élèves de première en 2026. Elle concernera les lycéens qui sont aujourd'hui en classe de seconde. Gabriel Attal avait déjà annoncé cette mesure en décembre dernier en présentant le premier volet du choc des savoirs. La nouvelle épreuve contribuera à replacer la culture commune scientifique et mathématique que nous devons transmettre aux jeunes générations, souligne l'entourage de la ministre. Il est impensable de préparer nos élèves au monde des adultes sans ancrer solidement leur maîtrise des sciences et des mathématiques comme nous le faisons déjà pour le français, dit-elle. Le Figaro se moque un peu, la ministre est même un peu lyrique, deux points, ouvrez les guillemets. Le temps est venu pour la nation de Laplace, la nation de Poincaré, la nation de Marie Curie, de Cédric Villani, de refaire de la culture scientifique et mathématique une part indivisible du génie français. C'est un ministre qui dit ça. Voilà. Alors, pas d'épreuve en terminale pour une part d'entre eux, donc je ne comprends rien, Sugar Frog, je ne comprends rien, j'espère que je vais comprendre grâce à vous. Concrètement, à quoi pourrait ressembler la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques en première ? Les épreuves sont différentes pour les spécialistes qui suivent les spécialités mathématiques et les non-spécialistes. Bon, ok, bon. Toute une série de questions vont se poser au risque de rouvrir la guerre du bac et de créer une vraie usine à gaz, dit un connaisseur du sujet, car les épreuves actuelles forment aujourd'hui un total de 100%. Il faudra donc diminuer le coefficient de certaines d'entre elles, de ces épreuves, pour faire de la place aux mathématiques et garder un total de 100%. Je ne comprends rien. Comme l'écrit et l'oral de français de première sont chacun effectués d'un coefficient 5, il ne serait pas illogique que l'épreuve anticipée de maths, elle aussi, a un coefficient de 5. Sans compter qu'il va falloir faire une place dans le calendrier scolaire après le 15 juin, lorsque les lycées sont fermés, pour faire passer l'épreuve. Mais aussi trouver des correcteurs parmi les professeurs de maths qui ont déjà, à cette époque de l'année, leur copie de spécialité à corriger pour les élèves de terminale. Je comprends rien, je comprends rien. Des critiques ont commencé à poindre dans la foulée des annonces. C'est une nouvelle étape incohérente par rapport à la, à la réforme du bac qu'on nous avait vendue, a réagi Laurent... Zamekowski, porte-parole de la Fédération de la PEP, je le cite, on a passé beaucoup de temps à nous dire qu'il fallait arrêter de faire la sélection par les maths et finalement on y revient. Dans certaines filières, on finit par avoir besoin de mathématiques alors que dans la suite des études, on n'en a pas besoin. Il y a donc une certaine incohérence mais qui correspond à une demande de l'enseignement supérieur qui se sert souvent des maths pour sélectionner les candidats, y compris dans les filières, on n'a pas besoin de mathématiques. Je comprends rien. Alors, donc, je comprends qu'a priori, une épreuve de maths arrive en première comme il y a du français déjà depuis très longtemps. Est-ce qu'il y aura toujours une épreuve de maths au bac ? Squid Gwen me dit, si tu prends la spécialité maths P, tu auras deux épreuves à passer, une en première et en terminale. D'accord. Donc certains n'auront pas de maths au bac et l'auront en première, c'est ça ? Ouais. D'accord. D'accord. C'est ce que me dit Squid, ok. Il y aura toujours une épreuve de maths au bac. Mais pour tout le monde ? Ou seulement ceux qui ont pris l'aspect maths ? Putain, je comprends rien. Tout le monde? Quel bordel. Je comprends rien. À un moment, il y a eu les réformes Blanquer. Des élèves se sont retrouvés sans maths en fin de lycée. Et puis, on a tiré la sonnette d'alarme. On dit, c'est une catastrophe. De faire ça, ils ont remis des maths. Et là, ils mettent des maths en première. Je comprends rien. Je comprends rien. Alors, Squid me dit, tout le monde aura des maths en première et que les spé maths en terminale, ok. Ouais, bon. Ouais. Ouais. Alors, Juan me dit, ils veulent ça, ils veulent les résultats avant les admissions dans le supérieur pour évaluer ça sur les admissions. Même en L. Quand je dis maths, c'est examen de maths, examen de bac. Je sais qu'il y a des maths en première. Ok. Bon, écoutez, ça n'est pas très clair. Est-ce que pour certains, c'est clair, cette histoire? Alors, TRK, BBH me dit, c'est clair, épreuve de maths pour les élèves en première, du baccalauréat, et en terminale, seconde épreuve de maths uniquement pour les spécialistes. D'accord. Quel bordel. C'est clair qu'on est dedans. Ouais, d'accord. D'accord. Et c'est... D'accord. Pourquoi ça change tout le temps comme ça? Et c'est bien, c'est une bonne réforme ou pas? C'est une bonne réforme ou pas? Peut-être que c'est une bonne réforme, peut-être que je suis côté de la plaque. Hein. Je suis plus trop là. Ah, attends. Il y a Not Bad Viewer qui est peut-être enseignant. Mon Sam, en seconde, il n'y a aucune épreuve. Mais cette année, les élèves choisissent trois matières, les fameuses spécialités. En première, il y a une épreuve collective de maths. Mais les maths ne continuent pas en terminale. Les élèves enlèvent une de leurs spécialités. Et enfin, en terminale, il ne reste que les épreuves de spécialité. Si on a pris spé maths, on a re une épreuve de maths. Le souci de rajouter une épreuve, c'est que la note finale du bac est faite de coef. Or là, on n'en rajoute rien. Globalement, je comprends. Mais c'est quand même un beau gros bordel, quoi. Ouais. Je comprends, mais j'ai l'impression qu'à chaque gouvernement, il y a sa réforme de l'éducation, quoi. Voire du bac. Bon. Écoutez. Ah, Not Bad Viewer dit, c'est normal, je sors de terminal. Ok. Ah, défécateur, j'ai pas vu le message défécateur. Ah, attends, je vais dans ton historique. Alors, défécateur, qui est une personne merveilleuse, point simple sur la situation actuelle, deux points. La réforme du bac a supprimé les filières S, L, etc. Ça, je l'ai. Il n'y a donc plus qu'un bac général et des bacs technologiques. Jusqu'ici, ok. Il y a un socle commun, ok. Puis des spécialités qu'on peut choisir en première et en terminale. Ouais, en fait, ils ont supprimé les filières spécialisées et les ont recréées par le biais des options. Jusqu'ici, j'ai bien compris, on a supprimé l'ancien système et on l'a recréé aussitôt. Tout ça est très clair. Les maths font partie des spécialités. Quant aux épreuves de bac, depuis 2021, elles comptent pour 60% de la notation. Le contrôle continu compte pour 40%. Ça, c'est nouveau, on est d'accord. Bon, à l'époque, j'avais pas ça. Et jusqu'à présent, seule l'épreuve de français était anticipée en première. D'accord. En fait, moi j'ai passé mon bac en 1989. Il y a eu X réformes depuis. Globalement, rien n'a changé. Enfin, dans la philosophie générale. C'est-à-dire qu'en fait, ils changent les règles du jeu, mais c'est toujours le même jeu, quoi. Non, pas 1889, 1989. Va te faire foutre. Non, pas en 889. Non! Putain. Non, pas en 1789, putain! Mais non, pas sous Napoléon, mais... Elos Winite. Sam, c'est une nouvelle épreuve qui ne sert réellement qu'à trier des élèves qui ne continuent pas de maths dans le parcours, puisque ceux qui se spécialisent en maths auront toujours un bac de maths en terminale. Ok, d'accord. Mais arrêtez avec. Ah non, mais non, pas avant Jésus-Christ. Ça m'énerve. Bon. Une bonne nouvelle, il y en a parfois dans l'actualité. Une bonne nouvelle, un bilan dentaire annuel en France pour les jeunes, pour une génération sans caries. Moi, ça me parle. Moi, je me souviens, mon dentiste, quand j'étais jeune, c'est une époque où les enfants avaient beaucoup de caries. Moi, j'ai eu beaucoup de caries quand j'étais jeune. Il n'y avait aucun soin pour la douleur à l'époque. Ça attaquait la fraise directe. Ça existe déjà. Ça, arrête, Tony Klee, on n'a pas lu l'article, tu vas voir, c'est nouveau. Ça attaquait directement la fraise dans la dent. Il n'y avait pas de piqûre, il n'y avait pas pour de la douleur, tout ça, ça y allait directement. Directement. Et j'en ai eu, je peux vous dire, des caries. Qu'est-ce que faisait mon dentiste adorable en sortant du soin? Malin. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait, moi et mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faisait juste après le soin, au moment où les parents réglaient la petite note? Un bonbon, exactement. Il prenait un gros pot à bonbons et il disait, tiens mon chéri, t'as été sage, prends un bonbon. Malin. Je ne vais pas donner son nom, je me rappelle très bien, très gentil. Voilà. C'est génial, c'est génial. Je n'invente pas cette anecdote. Voilà. Elle avait un énorme pot à bonbons, quoi. Non, pas sans sucre. Non, des bonbons, des bonbons. Ouais. Voilà. Bon, ça a changé tout ça. Heureusement. c'est incroyable, quoi. À partir du 1er janvier prochain, qu'est-ce qui change? L'assurance maladie prendra en charge un bilan dentaire annuel chez les 3-24 ans. Annuel. Voilà, bilan annuel chez les 3-24 ans. C'est l'un des secteurs de la santé où les inégalités sociales restent les plus criantes. C'est un article dans La Croix ce matin. Et ce, dès le plus jeune âge. Selon une étude de la DRES réalisée en 2012-2013, à l'âge de 6 ans, 9 enfants de cadres sur 10 n'avaient jamais eu de caries, contre 7 enfants d'ouvriers. Une autre étude plus récente, été 2024, illustre encore ce fossé social. En grande section de maternelle, 92% des enfants de cadre n'ont aucune carie, 70% pour les enfants d'ouvriers. Ont des dents, voilà. Et enfin, en classe de 3e, 5% des enfants de cadre ont des dents cariées non soignées contre 14% des enfants d'ouvriers. C'est pour y remédier que l'assurance maladie a annoncé le 7 novembre la mise en place d'un bilan annuel pour les 3-24 ans, cofinancé par l'assurance maladie et les mutuelles. Ces consultations comprendront un examen bucco-dentaire, un entretien de sensibilisation avec le dentiste, il ne faut pas qu'il donne des bonbons après, sinon c'est nul, hein. Et des soins si nécessaire, sans aucune avance de frais pour les patients. Jusque-là, le bilan pris en charge par la Sécu avait lieu tous les 3 ans. Quelqu'un me disait, ça existe déjà. Ah non, la nouveauté, c'est que c'est tous les ans maintenant. Et pas tous les 3 ans, parce qu'en 3 ans, je peux dire que tu peux bien les niquer tes dents. Hein. Le bilan pris en charge par la Sécu avait lieu tous les 3 ans, à 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans et 18 ans. Maintenant, c'est tous les ans, de 3, ça commence plus tôt, à 24 ans. Ça finit plus tard. Moi, je dis GG. Ça s'appelait jusque-là le programme MT Dents. Lancé en 2007, ce dispositif qui bénéficie chaque année à 2 millions de patients environ a nettement fait décliner le taux de jeunes atteints de caries. Donc déjà, ce programme a bien fonctionné. En rendant ces bilans plus fréquents, le but est d'aller plus loin, de faire émerger une génération sans caries, vous imaginez. Si on arrive à faire ça tous les ans jusqu'à 24 ans, on aura réussi un virage. C'est toute une génération dont le capital dentaire sera préservé. Reste à trouver un dentiste, certains en parlaient dans le chat, hein. Une spécialité qui n'échappe pas à la désertification médicale. En France, on compte en moyenne 67 dentistes pour 100 000 habitants, ce qui est moins que la moyenne européenne. Mais le plus que le nombre de dentistes, c'est la répartition qui est problématique, puisque dans certaines zones, et notamment rurales, parfois il y a très peu de dentistes. La France a toutefois fait des progrès colossaux en matière de santé bucco-dentaire. Donc, pour dire les choses, pour dire les termes, on pue quand même beaucoup moins de la gueule qu'à une époque, hein. Depuis la fin des années 80, l'état de santé bucco-dentaire des enfants s'est amélioré, notait déjà l'adresse, en 2013, pointant la baisse notable du nombre de caries. En 87, un enfant de 12 ans avait en moyenne 4,2 caries. Aujourd'hui, ce n'est plus que 1,2. C'est même moins parce que c'était en 2006. Quant à la part des enfants sans caries, aucune. Il y a des gens qui n'ont pas de caries. Putain, il y a des gens dans le chat qui n'ont pas de caries. Elle a augmenté de 12 à 56% sur la même période. C'est très positif, les enfants des années 80 sont devenus parents, et quel que soit leur milieu social, ils sont beaucoup plus attentifs à l'hygiène. Les gens n'ont pas de caries ici? Mais sérieux, quoi? Mais moi, j'ai des caries sur toutes les dents, moi. Quand j'étais petit. Mais c'est dingue. Mais j'ai toutes mes molaires, Comment ça se fait? Pourquoi vous avez pas de caries, vous? Ah, maintenant, adulte, je me lave beaucoup mieux les dents qu'enfant, mais... Incroyable, ça. Bah, bravo. Bah, bravo. Bah, je fais les félicitations. Voilà. Donc, les parents des années 80 sont... Les enfants des années 80 sont devenus parents, et aujourd'hui, ils font beaucoup plus attentifs à l'hygiène bucco-sociale. Voilà. Bucco-dentaire. Bon, alors, un conseil, quand même. Parce que se brosser les dents, c'est évidemment c'est capital, mais c'est l'alimentation qui est très importante. Manger sainement est le meilleur moyen de préserver ses dents. À l'inverse, les aliments ultra transformés, la malbouffe, les sodas, les sucres, excusez-moi, j'avais soif, raffinés, en général, font des ravages sur les dents, même quand si on les brosse soigneusement. Vous pouvez super bien laver vos dents, si vous bouffez mal, c'est pas terrible. Voilà. Alors certains parlent d'un facteur génétique aussi, peut-être. Ouais. Ouais. Et zéro carie, je me brosse pas les dents. Mousset, tu te brosses pas les dents, espèce de dégueulasse. Ma copine est dentiste dans une petite ville, elle est bouquée jusqu'en mars, elle continue de recevoir entre 20 et 40 appels par jour. C'est ouf. Alors moi, maintenant, je me brosse les dents... trois fois par jour, matin, midi et soir. Midi quand je peux, voilà. Et puis, par contre, je bouffe pas très bien, quoi. Ouais. Perso, jamais pris de douche et j'ai pas de caries. Dégueulasse, vous êtes des dégueulasses. Ouais. Point d'exclamation, vote dans le chat, n'oublie pas de voter pour moi pour truquer le... Il y a une enquête, il y a un sondage actuellement sur les 50 ou les 30 présentateurs préférés des Français à la télé. Tu sais, c'est le vieux truc, là, c'est comme le Twitch, mais sans le chat. Et en fait, j'ai décidé de truquer le truc et de bourrer les urnes. Et pour qu'en fait, pour qu'un streamer du nom de Samuel Etienne arrive dans le top 10. Voilà, n'hésitez pas à bourrer les urnes. On est en train de truquer ce sondage. Voilà. Point d'exclamation, vote. Et comme le dit Sugar Frog, n'oubliez pas la navigation privée pour revoter derrière. Ouais, en plus c'est bizarre, faut voter pour 10 personnes, super bizarre. Ouais. Ouais. Avec la commu de rêve que je suis, que j'ai, il n'est pas impossible que j'arrive dans le top 10. Encore une bonne nouvelle. Encore une bonne nouvelle. Quand les gens veulent bien faire, je ne suis pas nécrophile, je ne bourre pas les urnes, je comprends pas. Je ne suis pas nécrophile. Oh! Je ne suis pas nécrophile, je ne bourre pas les urnes. Ah putain, je viens de comprendre. Oh nom de Dieu! Oh non, putain! Oh nom de Dieu! Oh! Oh, oh. Bon. Une bonne nouvelle pour la planète. Voilà. Parfois, il faut faire confiance aux professionnels qui, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, eh bien, sont capables de s'organiser. En Bretagne, vous avez des pêcheurs qui se sont organisés eux-mêmes pour protéger la ressource, voilà, et protéger les coquilles Saint-Jacques, et pas les pêcher n'importe comment, et ça a marché, petit article dans Libération que je trouve assez intéressant. En Bretagne, les pêcheurs de Saint-Jacques montrent le chemin, sortie en mer minutée, jour proscrit, quota, merde, mon crayon, quota, sur le pont des marins de la baie de Saint-Brieuc, raconte comment l'encadrement strict de la pêche des coquilles Saint-Jacques dès les années 70 a permis de préserver la biodiversité et leur activité. Hein, souvent en mode tiers environnemental, on est en mode putain, on va jamais y arriver, c'est une catastrophe. Chacun ne pense qu'à sa gueule, on va tous mourir. Bah, de temps en temps, on se rend compte que ce voyageur, c'est fait, j'ai pas voté pour toi, va te faire foutre. Parfois, on se rend compte que certains, se retroussant les manches, arrivent à faire des trucs plutôt cool. Let's go. On est au port de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor, il est à peine 8h, 8 octobre, petit matin, enfin 8h, non, c'est le matin, les marins sont à pied d'œuvre sur les ponts. Comme deux fois par semaine seulement, d'octobre à avril, 238 navires quittent au même moment les ports de Saint-Quay, mais aussi d'Erquy, Saint-Calguido ou encore Paimpol pour aller pêcher la coquille Saint-Jacques dans les fonds de la baie de Saint-Brieuc. Morgoth, ce stream est devenu si violent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est devenu un petit peu... Ouais. Ah, le chemin, j'avais pas compris la blague. Eh oui. Ah, j'avais pas compris. Les pêcheurs de Saint-Jacques montrent le chemin. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, pas mal. Chacun son coin. Donc les bateaux partent, ils se dispersent dans la baie, chacun son coin. Les règles sont les mêmes pour tous. Oui, ils sont autorégulés, exactement. Patte la brute. Le début de la pêche est fixé à 9h45. Pour combien de temps? 60 minutes, pile! Pas 61 minutes. Les mecs, ils ont le droit de pêcher pendant 60 minutes. Voilà. Donc 9h45. Parfois, vous avez un avion qui survole la mer pour repérer les contrevenants. 5-6 minutes de dépassement. Hop, une journée de pêche de sanction. Voire même une condamnation au tribunal. Ouais. Ce sont quelques-unes des mesures qui encadrent strictement cette pêche dans la baie costamoricaine, la plus dense en ressources. S'ajoute à cela une quantité maximale pour chaque pêcheur, une tonne par marée. Le diamètre des anneaux de drague. De drague de filet. Hein. Ces filets de métal qui raclent les fonds marins à la recherche des coquilles, c'est aussi peu à peu agrandi pour épargner les coquilles Saint-Jacques les plus jeunes. Cette année, la taille minimale des coquilles débarquées est même passée de 10,2 à 10,5. Parce que non seulement c'est encadré dans le temps, c'est encadré en quantité, mais il y a aussi une taille de coquille. Et les pêcheurs, une fois qu'ils ont pêché la coquille pendant une heure, ils les mettent sur le pont et ils prennent les coquilles une par une. Ils ont un petit truc pour mesurer. Voilà. Est-ce qu'elle est lourde leur drague? Un petit peu, ouais. Et tout ce qui est, je crois que c'est 10 cm et des brouettes, je sais pas quoi, et ben tout ce qui est en dessous, une par une, ils remettent à l'eau. Voilà. Voilà. Et comme la coquille Saint-Jacques, elle peut survivre en dehors de la flotte pendant un petit moment, il n'y a aucun problème. Ouais. La régulation paie. Mi-octobre, l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui évalue chaque année l'état de la ressource pour accompagner les pêcheurs dans leurs efforts, a fait savoir que le gisement briochin, pas de brioche, hein, il n'y a pas de brioche au fond de l'océan, c'est un brieux briochin, avait atteint un nouveau record durant les 63 dernières années. C'est assez impressionnant. La principale raison du succès, ce sont les mesures de gestion mises en place. Avec une particularité, puisque ce n'est pas une autorité administrative qui a imposé ces règles, ce sont les pêcheurs eux-mêmes. La baie de Saint-Brieuc a toujours été à l'avant-garde. Dès le début de l'exploitation du gisement dans les années 60, les professionnels ont limité un peu le temps de pêche. Puis, face au mauvais état d'une ressource surexploitée, ils ont été les premiers en France à créer un système de licence en 73, les premiers à fixer un quota collectif 76, rendre obligatoire le passage à la criée pour assurer le suivi 78, les premiers encore à agrandir les anneaux de drague. Hop. Là, il y a un exemple d'un pêcheur qui a un bateau qui s'appelle la Margouille. La Margouille, qui s'appelle Jean-Michel Le Hégara, qui mesure les effets de ce très bel exemple de gestion. Il y a de plus en plus de coquilles, on remplit assez facilement les dragues. Avant, on faisait une tonne par jour en début de saison et puis 600-700 kilos à la fin. Depuis 3-4 ans, il n'y a plus de différence entre le début et la fin de la saison. La coquille, il y en a. Bon, bah, je trouve ça pas mal. Voilà. À un moment, il y a des gars, plutôt que racler les fonds à l'infini et puis voir la ressource disparaître, eh bien, ils se sont organisés, les pêcheurs. Pas partout, hein, dans cette baie de Saint-Brieuc, et ils ont dit, voilà, si on veut préserver la source, si on veut pouvoir continuer à en vivre, eh bien, il ne faut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit? GG, non? Je trouve ça pas mal. Voilà. Donc, de temps en temps, dans la presse, il y a aussi des bonnes nouvelles comme ça. Je trouve ça pas mal. Si la drague se passe bien, ça agrandit les anneaux. Je l'ai pas, Thierry, je l'ai pas. Je l'ai pas, là. Je vois pas, là. Je veux pas voir, d'ailleurs. Enfin, si, je vois, mais je veux pas voir. Bon, je trouve ça pas mal. Non, je veux pas voir. Non, arrêtez, j'ai des images qui arrivent là. Oh, c'est dégueulasse. Et fier d'être breton quand je vois ça. Moi aussi, Yoship Sonic. Ouais. Lire des choses positives, ça fait du bien. J'essaye de temps en temps. Je connais pas 10 présentateurs, présentatrices. Qui est bien à mettre comme 9 autres personnes dans son âge? Tu mets au pif, heureux 10. L'important, c'est que tu cliques pour moi. Tu m'opives. Je suis vraiment un monstre. Oh, mais Valorant m'a transformé. Mais Valorant a fait de moi un diable, un diablotin. Hein? C'est fou, ça. C'est dingue, ça. Et GTA aussi, ouais. Ouais, c'est fou, ça. Alors ça, c'est une dinguerie. Ok, merci Matt Delot pour cette info que je ne vais pas pouvoir lire. Je pense que vous connaissez l'histoire, mais je la trouve incroyable. Il y a un gars, c'est un Néo-Zélandais. Voilà. Il est champion du monde de Scrabble en français. Il ne parle pas un mot de français. Hein, parce qu'il a appris le dictionnaire par cœur.
Okay.
Il vient de faire la même avec le championnat du monde de Scrabble en espagnol. Voilà. Il ne parle pas un mot d'espagnol. Il a appris le dico par cœur. C'est tout. Let's go. C'est un champion compte triple. Excellent. C'est dans Libération. Nigel Richard, déjà maître inégalé du Scrabble anglo et francophone. Et il est champion du monde en anglais, champion du monde en français, maintenant c'est en espagnol. Elle a ajouté lundi une nouvelle corde à son arc lettré en devenant champion du monde de Scrabble duplicate hispanophone à Grenade, en Andalousie. Le tout sans parler un mot d'espagnol, pas plus d'ailleurs qu'il ne parle français, pour déjouer l'ennui de jouer dans sa langue maternelle, parce que c'est trop facile en anglais pour lui. Le surdoué compétiteur a tout simplement mémorisé le dictionnaire, en tout cas l'ensemble des mots admis au Scrabble. Le mec a pris tous les mots qui étaient autorisés au Scrabble en espagnol, et il les a appris par cœur. Ok. Jean-Baptiste Morel, qui est rédacteur en chef d'actu.fr et aficionado de Scrabble depuis une trentaine d'années, s'est amusé à live-tweeter le championnat du monde où, malgré sa notoriété, le Néo-Zélandais de 57 ans était bien loin de faire figure de favori. Plus impressionnant encore, Nigel Richards aura plusieurs fois égalé l'ordinateur. Ça me fume. Capable de trouver à chaque fois la meilleure combinaison de lettres possible. Parfois, il a fait aussi fort que l'ordi pour trouver la meilleure combinaison. C'est quoi ce malade ? En 2015, en débarquant sur les compétitions francophones avec son hypermnésie, hein, mémoire de fou, hein, les gens hypermnésiques, la question pour un champion, on a beaucoup d'hypermnésiques par exemple. Salut Chouba, et vive les Etienne. Nigel Richard avait fasciné le petit monde du Scrabble. On savait que c'était un monstre, soufflé à l'époque à Libé, l'ancien champion du monde Benjamin Valour. On n'avait pas réalisé que c'était un ordinateur. Le journaliste de Libé, envoyé en Belgique pour rencontrer l'animal, avait tenté en vain de lui retirer trois mots. Hélas, le génie a toujours refusé de parler à la presse. Il ne parle pas à la presse. Et il ne fait aucune exception. C'est un gars qui ne parle pas à la presse. En remportant ce tournoi de Scrabble Duplicate, donc forme de jeu individuel où tous les joueurs reçoivent la même pioche de lettres et que chacun doit trouver le meilleur mot possible, Nigel Richards compte désormais son palmarès 4 titres de champion du monde de Scrabble anglophone, 10 titres francophones et un titre hispanique. Reste à transformer l'essai dans l'épreuve de Scrabble classique, mais plus grand monde ne doute qu'il en est effectivement capable. Est-ce que c'est pas dingue ? J'espère que ça paie un peu champion de Scrabble, parce que voilà le boulot. Je pense que ça paye pas très bien en vrai. C'est fou, hein? C'est incroyable, hein? Le mec, il a pas le... Je pense qu'on a, on a pas le même... comment on dit, le cœur d'un logiciel, là, comment ça s'appelle? Ou l'ordinateur, système d'exploitation? Il n'y a pas le même système d'exploitation que moi, quoi. C'est fou, hein? Processeur. Ah bah, justement, j'ai un problème de processeur sur mon PC, moi aussi. Ouais. Carte mère. Processeur, je dirais. Processeur de merde, moi. On n'est pas monté pareil, dit Time Backpacker. J'aurais pas dit ça, moi, tu vois. J'aurais pas pris cette expression-là, moi. C'est plutôt le disque dur, là. Ok. Des nouvelles de Wembanyama ? Wemby, hein, on se souvient de la hype totale autour du joueur quand il est arrivé dans le championnat américain de basket de NBA. Voilà. Et puis, ben, l'équipe a pris de ses nouvelles. Voilà, elle l'a mis en une même ce matin, très belle photo. Auteur d'une super performance lors de la victoire des Spurs contre Sacramento, Victor Wembanyama franchit cette saison de nouvelles étapes dans sa progression. Ouais. Donc moi je trouve intéressant de voir où il en était, parce qu'il y a énormément d'espoir placé en lui plutôt. Et en fait il est en train de confirmer. Et c'est comme le dit Cyril, il fait un excellent début de saison, mais il n'est pas... Il est loin d'être le seul Français dans ce cas. Tout à fait, vous avez raison. C'est le seul regret que j'ai d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'à côté de Sarti, qu'il y ait un petit encadré sur les autres Français en NBA qui marchent très très fort. Bon. En tout cas, bon, force à lui. À pas de géant, Victor Wembanyama est parti sur des bases très élevées pour la deuxième saison avec les Spurs. Un niveau qui ne surprend pas grand monde à San Antonio, désormais habitué à le voir banaliser l'exceptionnel. Alors c'est un indice qui fait un début de saison qui n'est pas si top que ça. Il a eu un petit trou d'air, mais justement, il est revenu au top là. Si San Antonio avait célébré l'arrivée de Wemby comme celle du Messi en 2 juin 2023, l'effet de nouveauté s'était un peu estompé. Voilà. Et pourtant, si vous voyez ce qu'il fait à l'entraînement, il banalise l'exceptionnel. C'est son coéquipier géorgien Sandro Mamukelashvili, j'espère que je prononce bien, qui le dit. Un sentiment plus jamais d'actualité alors que l'intérieur français a repris la saison sur des bases très élevées. Il vient d'inscrire 34 points, 14 rebonds, 6 passes, 3 comptes dans une victoire face aux Sacramento Kings, 116-96, c'était lundi. Et alors que son équipe, hein, qui est une des équipes à la base des plus faibles du championnat de NBA, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pu, lors de la draft, s'adjoindre les services de Wemby, et que son équipe désormais engrange enfin des résultats, 5 victoires en 11 matchs. Mais ils partent de très loin. L'amélioration est palpable au quotidien dans sa relation avec Chris Paul, meneur 12 fois All-Star de 39 ans débarqué à San Antonio en septembre. Les deux nouveaux coéquipiers ont déjà bâti une relation forte malgré leur presque 19 ans de différence. En témoignent notamment les cours de français que le meneur prend, c'est trop mignon. Chris Paul, qui est un vétéran, hein, il prend des petits cours de français sur Duolingo, l'application là, pour communiquer avec Wemby. Je trouve ça trop cool, alors que Wemby doit parler un anglais parfait, je pense. Mais c'est assez charmant. Forcément, ces indicateurs positifs naissent des ambitions. Toujours bienveillants, les supporters des Spurs n'en restent pas moins exigeants avec leurs nouveaux protégés. On peut les comprendre puisqu'ils ont célébré au cours de l'histoire 5 titres de champion, en tout cas sur les 25 dernières années. S'il est trop tôt pour juger du vrai niveau des Spurs, la progression est nette par rapport à l'an dernier. En novembre 2023, San Antonio comptait déjà 8 défaites après 11 matchs. Donc, tandis que là, ils sont à combien ? 5 victoires en 11 matchs. 6. Ouais, donc tu fais 6 défaites. Donc c'est un peu mieux, quoi. Et vivait le début d'une série de 18 revers d'affilée, la plus longue de l'histoire de la franchise. C'est bon ce que j'ai fait, là. Ça marche si je fais ça ? Vous le voyez si je fais ça ? Ah non, vous le voyez pas. Je fais des petits effets spéciaux. L'objectif est de gagner tout en grandissant en même temps, résumait le leader dont je parlais tout à l'heure, là, Paul, face à la presse. Si seulement vous pouviez voir la quantité que Victor s'inflige chaque jour, la quantité de travail... Plus on joue ensemble, plus on va être à l'aise. Alors, l'équipe pose une question qui est vachement intéressante. Assez pour prolonger la saison au-delà du 13 avril. Attendez, Wemby, il est libre à partir du 13 avril ? Il peut changer de club déjà ? C'était possible, ça ? Non ? Ah, il parle des playoffs. Ah ! J'ai compris. Ah oui, assez pour se qualifier pour les playoffs. Ok, je comprenais pas. Ouais, il peut pas partir comme ça. Merci. Son contrat est sur 4 ans ? Merci beaucoup. Je trouvais ça bizarre aussi. Ah oui, est-ce que les Spurs vont pouvoir se qualifier pour les playoffs ? D'accord, ok. La saison s'arrête en avril, mais après il y a les playoffs. Merci beaucoup. Comment ça se fait, vous y connaissez autant en basket, vous ? Les chouchous, là, vous êtes forts. J'ai pas remercié les subs. Shadow21, merci pour le Prime. The Voyageur, que feras-tu pour l'éducation nationale quand tu seras président? J'instaurerai l'e-sport comme discipline obligatoire. NZIA, Rixa, Nailer Ghost, The Voyageur, d'ailleurs j'en parlais. Oh, ça va trop vite, merci beaucoup pour les soutiens. Merci beaucoup. J'espère que j'oublie personne. Parce qu'on aime ça. Meilleur sport du monde, passionné de basket. Récemment, j'ai assisté au match de basket d'un de mes petits-neveux que j'adore, qui joue au basket, il est lycéen. Et j'ai adoré, quoi. C'est hyper beau comme sport. Je trouve que c'est un sport, même quand tu connais pas, c'est génial à regarder. S'il y avait e-sport au bac, tu l'aurais jamais ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ? Dromadaire, 96, s'il y avait l'e-sport au bac, tu t'aurais jamais eu le bac ? Ça se veut aucun respect, quoi. Aucun respect. Vous ferez moins les malins quand je serai ascendant ou IMO sur Valo. Je peux vous le dire, moi, que j'aurai réglé mes problèmes de PC, là. Ouais. Grande madame, moi j'ai passé la pétanque au bac et c'est pas une blague, mais je te crois, grande madame. Je crois que selon dans certaines régions, il y a des petites spécialités comme ça. Dans le nord et en Bretagne, faut boire un maximum de demi en 5 minutes. Bon, j'ai passé cette épreuve-là, j'ai eu 20 sur 20. Escalade au bac, ça c'est pas mal ça. Grande madame qui me parlait de son épreuve de pétanque au bac rajoute, notre prof était alcoolo, on se donnait la note qu'on voulait. T'imagines le mec? Imagine le mec. Moi, je me mets 8 sur 20 parce que j'ai pas très bien tiré là. J'ai pas très bien tiré là, j'ai loupé mon carreau là. Donc, non, mets-toi 20, le prof est bourré d'un, je peux pas, je me mets 8 sur 20 là. C'est trop mignon. C'est trop chou. On boit pas de demi en Bretagne, fake news, seulement des pintes. Ah non, c'est, tu connais pas, non. Tu connais pas tu connais le maître ou pas? Tu connais l'alcool? On buvait ça, donc on buvait pas des demi, on buvait pas des pintes, on buvait des mètres. Le mètre, c'était un espèce de petit bac en bois comme ça. Et t'avais un nombre de verres dedans, donc tu pouvais mettre ce que tu voulais. Nous, on mettait de la bière. C'était un mètre, ça faisait un mètre, je crois. Ouais, c'est une dizaine de demi, voilà. Voilà. Et en fait, c'était un nombre impair, je crois. Et bref, celui qui buvait, on buvait ça, on se prenait ça à deux. Ah, vous appelez ça les girafes, vous? Et donc, on buvait ça à deux. Et en fait, le plus rapide, il buvait la bière impair, quoi. Voilà. C'est pas trop mauvais à ça. Ouais. C'est quoi girafe? Je connais pas. Girafe, c'est autre chose? C'est quoi girafe? C'est quoi une girafe? C'est un litre? Ah, moi, je vous parle pas de. Ah non, 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 je parle de vrais trucs, là. Ah non, je parle d'un. C'est un truc, c'est un boc en bois, dedans, il y avait une dizaine de verres. Voilà. Ah non, un vrai truc. Attends, je vous parle de trucs, ça n'a aucun sens. Bon, pour terminer tranquillement, bon, on a le temps, en vrai, je suis en avance. En fait, je suis venu plus tôt, parce qu'en fait, avant, sur ce studio qui n'est pas le mien, on m'avait dit, ah, mais tu peux pas commencer la revue de presse avant 10h. Voilà, mais j'aurais dit, bah oui, mais c'est pas pratique, parce qu'à 11h45, vous venez me chercher, la revue de presse 1h45. Donc j'ai obtenu de commencer à 9h30. J'étais à 9h là ce matin, voilà. Et donc, du coup, j'ai un peu plus de temps. Mais ce matin, il n'y avait pas 1000 articles, du coup, j'ai un petit peu d'avance. Mais je voulais vous parler de cinéma aussi. Puisqu'il y a la sortie d'un nouveau Gladiator. Pourquoi? Parce que nouveau, parce qu'il y en a eu un il y a 24 ans, en 2001, que beaucoup ici ont peut-être vu. Merci Foreni, merci pour le Prime. Je voulais vous mettre la bande-annonce, mais mon setup de ce matin ne me permet pas de vous mettre de son. je n'ai pas le son du PC, donc dommage, on ne verra pas la bande-annonce. Ouais, déjà 24 ans, ouais. Donc vous irez. Il paraît que Samuel Etienne a refusé le rôle dans Gladiator 2, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tout à fait, je pouvais pas. J'avais un stream de prévu sur Animal Crossing, et du coup j'ai dû refuser ce rôle. Merci Rouliab. Merci Rouliab. Merci Foreni. Merci Un Homme Lent. Merci toujours là. Merci Shadow21, merci pour vos messages aussi. Ouais. Tu n'es jamais invité à des avant-premières? Si, Remake, là par exemple, j'avais des places. J'avais des places, mais j'ai préféré passer la soirée en famille. J'avais des places pour voir le documentaire de l'ami Inox, mais c'est pareil. Je trouve que à mon âge, il faut mieux privilégier la vie en famille vu que je suis souvent au taf. J'avais des places aussi pour le KCX. Voilà. Et en fait, je vais pas à ces trucs-là. Comme je bosse toute la journée et souvent une grosse partie de la soirée, j'essaie d'être là pour le dîner au moins, donc je vais jamais à des avant-premières, un truc comme ça. Quand j'étais célibataire, je faisais ce genre de choses, mais j'ai plus le temps de faire ça, quoi. C'est dommage d'ailleurs, ouais. Voilà. Il y a un truc qui me hyperait là, c'est le truc de Billy là, comment ça s'appelle là, de boxe là, le gala de boxe là. Voilà. TTR là, ouais. Ça va être quelque chose, je pense. On te voit plus que ta famille, du coup. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ce film? Gladiator, 5 Oscars en 2001, quand même. 5 Oscars en 2001. Percée de gloire de Ridley Scott dans l'arène de blockbuster du nouveau millénaire, ressuscitant le péplum avec des néo-jouets numériques. Le semi-inconnu à l'époque, Russell Crowe, s'est révélé en montagne de muscles, rugissant sous les bravos d'une foule sanguinaire en même temps qu'il embrochait de la viande humaine. Ne vous êtes pas, vous, assez diverti, hein, disait le personnage, s'enivrait du marathon de violence tout en mimant sa critique, était la truanderie ultime de ce méga succès. Hein, montrer de la violence tout en la dénonçant, malin, le petit Ridley Scott. Salut Vulcarion. Évidemment, personne ne prétend découvrir en Scott, donc Ridley Scott, chauffeur de salle devant l'éternel, un fin moraliste sur la société du spectacle. 24 ans plus tard, le programme reste le même, boosté à environ 310 millions de dollars de budget. Et on sait fort bien nous prendre pour des débiles légers en remplissant son office. Qu'est-ce que nous dit Libération avec tous ces mots ? Bon, c'est un film à grand spectacle, c'est pas un film d'auteur, c'est pas un film de dans la finesse, c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. N'êtes-vous pas rassasié ? Exactement, c'est ça. Gladiator est un très bon film, me dit Drug Gamer, qu'il a peut-être vu, j'espère. C'est pour dire ça. Ouais. Merci Esteban G pour le Prime, merci beaucoup. C'est au tour de l'Irlandais Paul Mescal, doux mignon venu de film indé, de connaître son sacre de bestiaux hollywoodiens. C'est qui Paul Mescal ? Paul Mescal. Je connais pas. Je crois que je connais pas. Paul Mescal. Mescal, je connais. Mescal, je connais bien. Je connais moins Paul. C'est qui Paul Mescal ? Je crois que j'ai jamais vu de film avec lui. Ah, c'est lui, là. Bon, beau gosse, c'est sûr, hein ? Sûrement bon acteur. Hop, c'est lui, là. Ah oh, oui, c'est un beau... Ouais, c'est un bel homme. Ça, c'est sûr. Bon acteur ? Vous êtes le chat, vous connaissez, vous. Il sort avec Gracie Abrams. On s'en fout, Truman, dites-moi, c'est un bon acteur. Excellent acteur, me dit Adrug Gamer. Franchement, oui, me dit Aurore. Ça va, Farah ? Ça va, Farah ? Il a fait la série Normal People, pas vu. All of Us Stranger, pas vu. Bien. Fava Murphy. Non. J'ai demandé à quelqu'un qui s'appelle Farah dans le chat. J'ai connu une Farah. Si elle allait bien. Et il y a Sarah dans le chat qui me répond Fava Murphy. Putain. Oh putain, c'est quoi ce chat ? C'est quoi cette commu ? Putain, mais laissez les Farah tranquilles. Oh, putain, le pire, c'est que je comprends la vanne. Donc, bon acteur, alors ? Oh, ok, ouais. Ça vous fait rire, en plus ? Enfin, c'est un très joli Farah, en plus. C'est un prénom masculin, féminin, Farah. J'ai connu une Farah, moi, je crois. Merci Milite. Fais pas drôle. Oh. Vous moquez pas des gens qui ont un petit cheveu sur la langue, je trouve ça trop charmant, moi. J'ai une collègue qui s'appelle Farah, c'est ça, hein ? Ça veut dire joie. Bah, j'aime beaucoup ce prénom. Je reviens à mon article. Bande de comiques. Donc c'est au tour de l'Irlandais Paul Mescal, doux mignon venu de l'Inde, de connaître son sacre de bestiaux hollywoodiens. Général de guerre dans une obscure cité d'Afrique au début du film, tombé aux mains de l'armée romaine, le gaillard ne déroge pas à la tradition, vendu comme esclave, hein, grand classique, en ayant tout perdu, affamé de vengeance pour son épouse, trucidé à peine le générique terminé, ce qui n'est pas très gentil. Survolant en demi-dieu les combats dans l'arène à la pointe de son glaive ou à main nue, il n'a pas son pari pour mettre la pâtée des rhinocéros, bouffe du singe enragé dans son premier stage d'intégration de l'électeur. À un moment, il y a un combat contre des singes enragés. À un moment, il y a un combat contre un mec qui chevauche un rhinocéros. À un moment, les mecs se battent avec des requins dans une piscine. Oui, mesdames et messieurs, ils ont fait la même histoire ? Attends, Vous allez tout comprendre. Un petit peu, ouais. Survolant. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Stupeur dans les rangs des confrères qui reconnaissent en cet outsider au poitrail fier leur chef naturel. Mais bon sang, mais comment est-il aussi fort ? Hein ? C'est génétique, peut-être ? Eh bien, oui, c'est génétique. Puisqu'en fait, Gladiator 2 révèle le destin du fils perdu de Maximus. Le Maximus de Gladiator 1. Le gars, là, c'est son fils. C'est son fils. Voilà. Et lui aussi, on lui trucide sa femme. Donc le mec étant fâché, il est fâché. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça, il prend son épée et il va tuer tout le monde. Voilà. Parce qu'il est en colère. Voilà. Gladiator 2 révèle le destin du fils perdu de Maximus, éloigné de Rome par sa mère 16 ans plus tôt pour sa protection, et adopté par une nouvelle patrie indigène, loin des ors du palais. L'Empire vit désormais sous le règne des jumeaux dégénérés Caracalla et Geta. Geta, je sais pas. Geta comme le DJ, je sais pas. Tyran en constante fièvre de conquête coloniale. Ode à tous les vices du cinéma pompier, le peplum n'a jamais compté la véracité dans son cahier des charges, tu m'étonnes. Ça n'empêchera pas Ridley Scott de donner du grain à moudre aux historiens consternés, parce que bon, il prend quelques libertés avec l'histoire. Hein. Dernière querelle en date pour ce gladiateur, surenchère de jeux sophistiqués et supplice digne des Atrides, une scène de bataille navale au centre du Colisée, remplie d'eau et de requins. Voilà, ce qu'ils n'ont jamais fait. Quoi. En vrai, je veux dire. Alors qu'une génération sépare désormais le premier volet de cette suite, une nouvelle frange de marché s'apprête bêtement à découvrir le charme massue du pugilat en jupe de cuir. Voilà. Non mais en fait, Libé dit pas que c'est de la merde. Hein. Libé dit, bon, bah, c'est un péplum, le truc n'a aucune... Au niveau de l'histoire, ça ne respecte pas les vrais trucs. C'est un peu une ressucée un peu du premier. Mais ils disent pas que le film est nul. Ils disent c'est un film à grand spectacle. Et les gens qui vont aller voir un film à grand spectacle, manifestement... Les piscines, c'est vrai, il y a des preuves. Oui. No, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'est les requins, ce qui est pas vrai. Bien sûr. Voilà. Alors, mais il y en a un qui tire son épingle du jeu, c'est Denzel Washington. Celui qui cannibalise tout le match, c'est Denzel Washington, insolent de style dans son rôle de Macrinus, marchand propriétaire de gladiateurs. Il la joue comme un macro à qui profitent déjà tous les crimes. Pas une castagne qui ne sache dominer en présence, c'est qu'il semble jouir de ses répliques plus fort que ce que devrait permettre Paris Salah, détenteur du meilleur rire de salaud d'Hollywood, se jouant de la vanité générale comme d'une farce en aparté, ou d'un film de gangster dont il serait la vedette, Ave Denzel, La République c'est toi. Manifestement, les Nomachi, exactement. Denzel Washington est totalement un goat dans ce film. J'aurais aimé vous montrer la bande-annonce. Salut Aldonou, les bravos pour ce que tu fais au quotidien. J'aurais aimé vous monter la bande-annonce, mais je suis dans mon setup du mercredi et ça marche pas. Il n'y a pas de son. Voilà. Donc j'y peux rien. La République, c'est moi. Non, Simcoe, c'est pas toi. C'est Denzel Washington. C'est dans Libération. Ou alors, il y a une autre personne qui a dit ça aussi il y a longtemps. C'était pas un réalisateur, je crois. Voilà. Voilà. Pas mal ce film en vrai. Moi, je crois pas que je vais aller le voir. Parce que je crois que le film, il est interdit au moins de quelque chose. Et moi, je suis un gars sensible. Voilà, je sens que ça va pas me plaire, ça. Attendez, c'est au moins de 16 ans, je sais pas quoi. Attends, moins de 12 ans. Moins de 12 ans, peut-être. Attends, Gladiator. Gladiator. À mon avis, c'est trop violent pour moi, ça. D'ailleurs, j'étais invité à l'avant-première avec mon épouse. Je regrette pas de pas être allé, parce que je pense qu'elle lui aurait pas plu. Interdit au moins de 16 ans. Ah non, c'est autre chose, ça. Non, c'est autre chose. Moins de 12 ans. Ouais, en France, interdit au moins de 12 ans. Voilà. Et moi, c'est trop pour moi. Même pas les trucs comme ça. Trop violents. 12 ans, ça va. Non, je peux pas. Non, non. Ah, Gaiden me dit, ça va. Il y a quelques giclées de sang, mais ça reste très soft. T'es sûr? Ah ouais, ça va. T'es sûr? Moins de 12 ans, c'est souvent des insultes. Ah, t'as dit au moins de 1m50, Sam? Ah, il y a Captain Européenne qui me dit c'est ultra violent. Ah! Alors, tête coupée, il y a tête coupée. Moins violent que GTA V. Ah. Samuel Okulutola revient demain. Polar. Demain, j'annonce, demain jeudi, après-midi, stream GTA en mode solo, en mode histoire. J'adore. Jeudi soir, dans la foulée, GTA RP. On retourne voir. Putain, je vais toujours l'appeler par son pseudo maintenant. Putain, c'est affreux parce qu'il a son pseudo dans le jeu. Ah putain, merde. Ah! Tommy, je vais l'appeler Billy parce que dans le jeu c'est Billy. Tommy. Ouais. Donc full jeudi GTA RP. Ah oui, Jimmy. Oh, je suis perdu. Putain, il y a trop de. Jimmy dans le jeu, mais faut que je me le note. Faut que je le note. Attends, je le note. Ils ont tous des. Ils s'appellent tous Johnny, Jimmy. Attends, Sam. Je m'envoie un message. Pff, la vieillesse. Sam. Alors attends. Donc attends, faut que je le note. Jimmy. Ok. Donc alors, Tommy. Alors attends. Tommy. Dans le jeu. Dans le jeu, c'est. C'est qui? C'est Jimmy? Tommy, Jimmy. Pff, quel enfer. Et attends, il y a Jimmy, et après, il y a un mec qui s'appelle Jimmy deux fois, je crois. Hein? Ou Jimmy fois deux, ou je sais pas comment on dit. Quel enfer. C'est quoi son nom de famille? Ah ben Zizou, il m'a viré du Flamingo là. Tommy, comment? C'est quoi son nom de famille? C'est Jimmy deux fois, voilà. C'est mon pote Jimmy deux fois. Ah oui, j'étais viré. Jimmy Fonotti, ouais. Fonotti. Oui, j'ai été viré du Flamingo. Parce que j'ai demandé à Zizou de me payer, il m'avait promis. Oui, il m'a viré. Il m'a envoyé un SMS dans le jeu. Parce qu'en fait, il m'avait proposé 10 000 dollars pour faire le videur au Flamingo. J'ai super bien bossé. Voilà. Et donc, à un moment, il me dit, ah, à un moment, je vais quitter le jeu pour aller me coucher. Et puis, je dis au revoir à tout le monde. Puis, je vais voir Zizou pour qu'il me paye, quoi. Il me dit, ah, bah demain, là, je peux pas, là. Bah, je dis, ok. Et puis, le chat, vous me dites, ah, tu t'es fait avoir. Tu t'es bien fait avoir, tout ça et tout ça. T'es vraiment qu'une grosse courge, Samuel Etienne. De toute façon, t'es minable, t'es qu'une merde. Enfin, voilà, le chat, quoi. Attends, je recharge mon iPad pour MVP. Et donc, bah, du coup, vous me connaissez, ça m'a piqué au vif, bien sûr. Ouais, j'ai perdu la tête. J'ai un peu perdu la tête, comme là en ce moment. Ça m'a piqué au vif, et du coup, j'ai appelé Tommy. Enfin, j'ai appelé Jimmy, quoi. Voilà. Dans le jeu, hein. Et je lui ai dit, ouin, il y a l'autre qui veut pas me payer, le chat se fout de ma gueule. Il me dit, t'inquiète, j'arrive. On est allé le voir et on l'a fait payer. On l'a même accompagné au distributeur, si vous voyez ce que je veux dire. 10 000 dollars. Il voulait me payer moins, soi-disant, parce que j'avais twerké. Voilà. Et donc il a payé. Et 10 minutes plus tard, il m'envoie un SMS en mode, il m'écrit, t'es viré. Comme ça. Tout ça, alors qu'en fait, il m'a juste payé son dû, quoi. Voilà. Je lui ai répondu, dans le jeu, hein. Va te faire foutre. Voilà. Ça, vous le saviez pas, c'était à la fin du stream, ça. Je lui ai répondu, va te faire foutre. Donc, on a des relations. Je pense que dans le jeu, on a des relations tendues un petit peu. On aura des relations un petit peu tendues avec Zizou, là. Je pense. Tu l'as pas décroché au téléphone aussi? Il a répondu? Oui, il m'a répondu un truc vraiment pas très poli. Ouais, il m'a répondu un truc genre en mode va bouffer tes morts ou comme ça. Ou il a parlé de ma mère, je crois. Alors c'est qui joue Zizou? Parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de la personne qui. C'est on dit Idater. Comment je prononce? Et on m'a dit beaucoup de bien de lui. On dit Idater. Pardon, je connais pas tout le monde, moi. Comment qu'on dit? Tater, c'est ça? Et alors c'est qui? Parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de lui. On m'a dit qu'il était très bon en RP. Dater. Ça devait être un petit peu son rêve d'envoyer en RP son dernier SMS. Ouais. C'est un mec qui kiffe sur son RP. Il est terre. Et c'est un streamer par ailleurs ou pas? Je vais aller le follow si c'est le cas. Oui, attendez. Donc si je tape Idater sur Twitch, je vais le trouver? Attends. Twitch. Je vais le follow. On est d'accord que si on s'insulte dans le jeu, si on s'insulte dans le jeu, ça veut rien dire dans la vraie vie, on peut s'apprécier, on est d'accord. C'est nouveau pour moi. Idater. Ah, c'est lui! Ah, il est marrant. Putain, il a plein de followers. Je le follow. D'accord, ok. Il est sympa ou pas? Tiens, je vous montre. Idater, c'est lui. Ah, il joue à Valo aussi. Ah, faut être abonné. Ah non. Oh non. Ah, vous avez pas le son, c'est tout cassé, mais c'est drôle parce que c'est très drôle, il hurle. Ah, c'est dommage, le son est génial. Je pense qu'il a des problèmes de digestion. C'est lui, hein, je me trompe pas, hein. Suis pas sûr, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr en fait quand je vais continuer à l'embrouiller en vrai. Quand je le vois là. Ouais. Ouais. Non, je pense qu'il n'y aura pas de son sur la rediff, Black Bolt, il y a un truc qui va pas avec le setup, mais je vais régler ça. Je vais peut-être arrêter de le chauffer parce qu'en fait sur GTA moi j'ai pas tout compris encore parce que je découvre ça et je chauffe pas mal le premier stream avec Tommy j'étais un peu insolent avec les bandits tout ça ils m'ont dit mais tu peux pas faire ça en fait il faut c'est comme dans la vraie vie en fait tu peux pas chauffer tous les gars comme ça que tu croises mais sauf que moi dans la vraie vie c'est ce que je fais à la base et donc en mode gangsta quoi et donc je suis en train d'apprendre là voilà si tu continues ton perso va juste mourir direct bah oui c'est ça le problème mais c'est le problème c'est que Le problème, c'est que c'est ce que je fais moi dans ma vie, quoi. Donc en fait, j'ai compris que dans ce GTA RP, il faut que je mette de l'eau dans mon vin, quoi. Voilà. Tu vas finir mort à un moment. Je pense que c'est ce que ça va finir comme ça, remake. Ouais. Je pense que ça va mal finir. C'est un premier RP, les gens vont être cléments. T'es bon à prendre. Oui, Fatoun, mais ils vont être cléments, mais patients jusqu'à un certain moment, tu vois. Je connais pas les touches, je sais pas faire la moitié des trucs, je me comporte mal, je dis des dingueries, quoi. Il y a déjà plein de moments où tu aurais dû mourir, mais les joueurs étaient gentils. Framboise, mais je sais. Ouais. Je fais des efforts, hein. Faux, tu fais comme tu veux. Leclerc, il a fait ça, il est allé très loin. Après, si je meurs, bah, je crée un nouveau perso. Hein. Après, si un mec essaie de me cut, moi je le marave en vrai. Hein. Je le descends. Hein. Moi, si. Faut pas me menacer comme ça, je supporte pas ça, moi. Je supporte pas les menaces. Alors, ma grande découverte, ça a été le GTA en solo, en mode histoire. J'ai pris un plaisir, il y a quelques jours là, sur le. Je m'attendais pas à ça, quoi. Donc le RP c'était cool, mais j'ai beaucoup aimé le mode histoire aussi en solo juste avant quoi. Et c'est ça que je vais faire jeudi quoi. Hier Amos a pris une balle. Ah. Ah, le mode histoire il est génial. T'étais pourtant le vigile le plus chill de l'histoire. Mais oui, ça allait pas ce vigile. J'essayais d'être gentil et tout. J'étais pas du tout à l'aise. Moi je suis un méchant. Moi je suis un bad boy moi. Merci Simerout. Merci Yuskov. Merci Mlit. Merci Estebang. Merci Rouliab. Merci à tous. Merci Foreni. J'ai peut-être déjà remercié, mais je vais être sûr de rater personne. Ouais. De toute façon, je suis plus vigile parce que j'ai été viré. Mais tant mieux, parce qu'en fait, ça m'empêche de faire des dingueries. Moi, ce que je veux me balader, c'est. Moi, ce que je veux faire, c'est me balader dans la rue, faire des dingueries. Je veux braquer des banques. À ce propos, est-ce que vous pensez que je peux proposer aux. C'est les ballasts, c'est ça? D'aller braquer le Flamengo? Merci Balès 88, merci Darsaliot. J'ai pensé à ça, vu les aventures que j'ai eues avec Zizou là. Moi j'ai très envie là jeudi de dire au Balas, il m'a pas très bien parlé l'autre tordu là. J'ai bien envie de braquer le Flamengo quoi. Hein? J'ai pensé à ça. Hein? Voilà. Et j'ai bien compris que si j'avais mon masque là, enfin mon foulard, ils ne pouvaient pas me reconnaître. Tu dois créer ton propre groupe Yakuza, à mon avis, c'est le meilleur futur de Samuel. Je vais apprendre d'abord. Surtout qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas potes du tout. Alors, hein, ça se tente de fou. En plus, t'as mal parlé, donc c'est légit totalement. J'ai envie de faire ça. Hein? J'ai envie de faire ça. Attention à pas dire de non, par contre, pendant le braquage. Oui, c'est ça, c'est vrai. Au-devant des ennuis. Mais c'est ça que je viens chercher, moi. C'est ça que je viens chercher, moi. Les ennuis, moi. Ouais. Elden Ring, c'est prévu. Tu sais quoi, Jaïve, comme je vous aime bien, je vais vous dire quand je rejoue Elden Ring. C'est calé, c'est calé. C'est calé. Je vais vous dire, moi. Mardi prochain. Grande soirée Elden Ring. Bam, c'est calé. Eh oui. Quand je dis je vais rejouer Elden Ring, c'est pas des blagues. Mardi prochain, je rejoue Elden Ring. Eh oui, grande soirée Elden Ring. Elden Ring, ce soir Final Fantasy, demain GTA, on va recaler du Valo en fin de semaine, on va être bien. Et le leak pour les jeux de Simplay, je vous dirais. Ah, on vient me chercher. C'est l'heure. Les amis, je vous abandonne, enfin je vous abandonne. Je cut pas le stream, on se met en pause. À 12h pile débute le MVP consacré au métier de l'eau. Voilà. Donc je cut mon micro. Je vous mets la scène d'attente et puis et je vous retrouve dans quelques minutes dans le studio du duo. Ça va être une belle émission. Voilà. Ok ? À tout à l'heure les amis, bougez pas.